Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Salut les amis, vaccinés ou non vaccinés, ravi d'être avec vous, c'est Laurent Neumann.
Salut tout le monde, ravi également, c'est Alexandre Devecchio.
Bonjour à tous, c'est Laure Clausier, on est ensemble jusqu'à 15h, non jusqu'à 14h parce qu'il y a vélo à 14h. On va parler de l'obligation vaccinale, du pass sanitaire. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de serrer la vis hier? C'est notre question jusqu'à 13h.
Oui, et à 13h on reviendra sur la question précise du pass sanitaire qui désormais va être obligatoire au restaurant, dans le train, au cinéma, dans certains commerces. Est-ce que vous êtes prêts à vivre au quotidien avec le contrôle d'identité permanent? Bah oui, il va falloir montrer son QR code, sa carte d'identité, partout où les vaccinés comme les non-vaccinés.
À 12h50, on va jouer au C'est quoi ça, notre jeu sur l'actualité. Cette semaine, vous gagnez votre séjour en famille pour 4 personnes au Futuroscope. Arthur, l'aventure 4D, les lapins crétins, tout ça c'est pour vous. Vous pourrez même dormir là-bas. Vous
tu
envoyez...
veux aller voir les lapins crétins
j'aimerais bien, avec
moi
j'aimerais y aller.
Ah si, les crétins.
Il est temps de se séparer, mon Lolo. Vous envoyez dès maintenant jeu, J-E-U, par SMS au 732-16 pour jouer avec nous, ça sera tout à l'heure. Mais avant, on va revenir sur le tour de vis sanitaire hier donné par le président de la République. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Voici le message. Et si vous ne le faites pas, et ben auto-confinez-vous en gros, car le pass sanitaire, c'est désormais plus un débat, c'est une réalité. Écoutez le président de la République.
Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. À partir du début du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés.
Les soignants, eux, voient la vaccination devenir obligatoire avec des contrôles et sanctions à partir du 15 septembre. Et attention, pas de vaccin, pas de travail et pas de salaire. Écoutez Olivier Véran, le ministre de la Santé, était ce matin sur RMC.
À compter du 15 septembre, des contrôles pourront être faits. Si la personne n'est pas en conformité, alors elle peut être mise en équivalent de congé sans solde, c'est-à-dire... elle n'est plus rémunérée, ne peut plus travailler au contact des patients sans être pour autant licenciée. Si au bout d'un mois, un mois et demi, la personne n'a toujours pas fait cette démarche de se protéger, alors ça peut déclencher un licenciement. L'objectif, c'est évidemment pas d'empêcher des soignants d'exercer leur métier. L'objectif, c'est de donner cette impulsion qui manque encore pour une minorité de soignants qui n'est pas vaccinée pour qu'ils aillent se protéger. On ne peut pas accepter l'idée qu'en vague épidémique, nous ayons des établissements pour personnes âgées, des hôpitaux où le virus rentre par l'intermédiaire bien involontairement de soignants qui n'auraient pas fait cette démarche de se protéger et de protéger leurs patients.
Alors notre question, Emmanuel Macron a-t-il eu raison de serrer la vis? C'est jusqu'à 13h. Robert Sebag va nous accompagner jusqu'à 14h. Salut Robert, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Mais avant, l'avis de Laurent, tu t'es converti au pass sanitaire.
Ah oui, non mais il n'y a pas que le pass sanitaire, il y a l'obligation vaccinale pour les soignants, etc. Mais en tout cas, si la question est-ce que Macron a bien fait, pour une fois, on n'a pas besoin d'attendre les sondages. Une heure après, c'était l'enfer sur Doctolib pour prendre des rendez-vous. Donc c'est la meilleure preuve qu'il a bien fait. J'ai regardé 900 000 rendez-vous hier, 7 millions de personnes qui se sont connectées, 22 millions de personnes qui l'ont regardé à la télé, un tiers d'entre eux se sont précipités pour avoir un rendez-vous. Et ça continue ce matin parce que...
on était à plus d'1,2 million il y a quelques
instants. Et oui, sur Doctolib, rien que pour la matinée, c'est 350 000 prises de rendez-vous. Et je ne parle que de Doctolib. Donc il y a aussi le site VitmaDose, il y a aussi ceux qui ont appelé directement leur médecin, qui sont allés voir leur pharmacien, etc. Donc ça veut dire qu'il a bien fait. Premier point. Deuxième point, moi, vous savez ce que je pense? Tout plutôt qu'un reconfinement, tout plutôt que le couvre-feu. Et puis troisièmement, et là ça me fait plaisir, on va se rendre compte d'ici la rentrée que les anti-vax ceux qui sont vraiment contre le vaccin pour des raisons qui leur appartiennent, idéologiques ou autres, peu importe. Mais ceux-là, on va se rendre compte qu'ils sont ultra, ultra minoritaires. Parce qu'au fond, si la vaccination tardait à s'accélérer, à démarrer, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens encore hésitants ou des gens qui se disaient « on verra plus tard ». Bah oui, mais comme le variant Delta est là, il faut se dépêcher d'aller se faire vacciner. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé hier soir sur Doctolib et sur les autres sites internet où on prend des rendez-vous est la meilleure des réponses.
Alexandre.
Alors deux choses, je vais répondre à Laurent Neumann déjà sur Doctolib et les autres sites. Je vais peut-être ricaner, j'espère que non, mais quand on n'aura pas les moyens de vacciner rapidement tout cet afflux qui va arriver dans les hôpitaux, dans les centres, avec on a 9 millions de doses, je crois apparemment. Il ne faudrait pas que ça aille trop vite quand même, parce que on va peut-être retrouver l'absurdistan et l'inefficacité qu'on a connu il y a quelque temps. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça a marché. Évidemment, en fait, la rhétorique actuelle, qui est la vôtre aussi, c'est vous avez le choix, ou on vous coupe le bras, c'est-à-dire où on vous confine, ou on vous coupe les trois doigts. Enfin, je dis pas que se faire vacciner, c'est couper les trois doigts, parce que moi, je pense que
le vaccin, métaphore fonctionne,
n'est pas dangereux. Mais en gros, on ne donne pas le choix aux gens. En gros, on les menace de les enfermer ou d'aller se faire vacciner. Donc, il y a une forme de chantage. On a vu un président de la République qui a exercé une forme de chantage sur une partie de la population et qui a désigné une partie de la population comme bouc émissaire en expliquant qu'il y avait les civiques et les inciviques. Et je trouve que c'est l'aspect, moi, le plus problématique de tout cela. J'aurais préféré, à la limite, une vaccination obligatoire, même si j'y suis opposé. Je pense qu'on avait le temps de continuer le travail de conviction, mais à la limite, c'était honnête. L'État prenait ses responsabilités. Là, on crée une forme de citoyenneté à deux vitesses qui est très inquiétante. On avait ceux qui ne sont rien et les autres. On avait les premiers et les derniers de cordée. Maintenant, on va voir les vaccinés et les confinés. Voilà, je suis pas sûr que pour rassembler le pays, c'est la meilleure des choses à faire. Donc certes, ça va sans doute être efficace, mais ça laissera des traces sur le plan démocratique. À la fracture sociale, culturelle, territoriale, va s'ajouter désormais une fracture vaccinale qui va être résolue. Je suis d'accord, parce que les gens vont aller se faire vacciner, mais qui laissera des traces. Je pense que le pouvoir perdra finalement ce qu'il semble avoir gagné là hier soir.
Alexandre, ta position, elle est légitime, je la partage pas du tout, mais très bien, je l'entends. Mais il y a une chose qu'il faut que tu prennes en compte. Il y avait un peu plus de 900 personnes hier en réa, en soins intensifs. Qui sont les gens qui sont en réanimation? Ce sont soit, et là on est proche des 100%, écoute bien, hein, ce sont soit des gens qui ne sont pas vaccinés, soit des gens qui sont vaccinés mais immunodéprimés et donc auxquels le vaccin malheureusement ne porte pas la même réponse que pour les autres. 100% des gens. Voilà, donc si tu veux pas aller en réa et si tu veux pas mourir de cette saloperie, bah tu te vaccines. Voilà, donc les gens qui ne se vaccinent pas risquent d'envoyer des immunodéprimés en réanimation. Rien que pour ça, il faut que tout le monde se vaccine.
Juste avant de donner la parole à Robert, Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux. Bonjour. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de serrer la vis? C'est ce qu'on vous demande et vous pouvez nous répondre et nous écrire sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC. Robert Sebag, 1,3 million de Français ont pris rendez-vous sur Doctolib depuis hier. C'est ce qu'il fallait faire, le discours d'Emmanuel Macron?
Deux choses. D'abord, je suis ravi qu'on n'ait pas parlé que des soignants. Qu'il a élargi ça à tous les entrants, et c'est ce qu'on disait depuis plusieurs semaines. Il n'y a pas que les soignants, il y a tous les gens qui sont en contact avec le public. Il y a plus de 60 professions, donc ça, c'est quelque chose de très bien. L'afflux, si vous voulez, pour prendre les rendez-vous. Alors, deux choses. Quand on a répété pendant des semaines qu'il fallait se faire vacciner parce qu'il y avait à avoir des morts, on n'a pas eu beaucoup d'effets. Au contraire, il y avait une diminution des rendez-vous. Et puis là, dès qu'on dit, vous pourrez plus aller au café, vous pourrez plus sortir, les gens se précipitent. Bon, écoutez, tant mieux si les gens vont se faire vacciner. Deuxièmement, les gens qui ont pris rendez-vous, c'est très, très bien. Ça va, on va peut-être approcher l'immunité collective. Mais les gens à risque, les personnes de plus de 70 ans qui ne sont pas vaccinées, les personnes en surpoids, c'est pas eux qui ont pris rendez-vous. Et c'est là qu'il faut insister, parce que ce sont ces gens-là qu'on risque de retrouver, qui ne sont pas vaccinés, qu'on va retrouver à l'hôpital. les jeunes vont peut-être, ils ont bien sûr une capacité de transmettre, ils ont une possibilité de transmettre le virus, mais ils vont pas faire de forme grave. Mais ils peuvent le transmettre à des gens qui sont pas vaccinés. On est derrière l'Espagne, derrière le Portugal, derrière l'Italie, sur les personnes de plus de 70 ans et comorbidités qui ne sont pas vaccinées.
J'ai les chiffres,
là,
j'ai faut, les chiffres oui, hein, sous les yeux, on peut les donner.
Il faut vraiment, vraiment insister là-dessus. Le million de rendez-vous, c'est très très bien, mais maintenant il faut aller vers toutes ces personnes, vers les gens qui n'ont pas de statut, qui sont des réfugiés, qui sont des migrants, qui ne sont enregistrés nulle part, sans abri, etc. Et là, c'est vraiment une population qu'il faut prendre en compte et essayer aussi de les vacciner.
Il y a 29% des majeurs atteints de pathologies graves qui ne sont toujours pas vaccinés. Il y a 37% des personnes obèses qui ne sont pas vaccinées. Il y a 25% des diabétiques qui ne sont pas vaccinés. C'est ceux-là, évidemment, qu'il faut vacciner en priorité.
La sécurité sociale aurait pu essayer de les cibler mieux, ce que Robert Sebag dit depuis longtemps.
Les médecins traitants, depuis la semaine dernière, ont accès à la liste de leurs patients qui ne sont pas vaccinés. Ça fait une semaine seulement.
Allez, on va au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Franck, qui est infirmier en chirurgie, qui nous appelle depuis Villeurbanne. Bonjour Franck.
Bonjour.
Toi, tu ne te feras pas vacciner et tu préfères même te faire licencier.
Exactement.
Tu es infirmier en chirurgie, c'est ça?
Alors j'ai fait chirurgie et pendant que les blocs étaient fermés pendant le Covid, j'étais en service Covid.
Et t'es où, si c'est pas indiscret?
Je suis dans un hôpital dans l'Est lyonnais.
Dans l'Est lyonnais?
Voilà.
D'accord. Et pourquoi cette réticence à la vaccination? C'est quand même bizarre pour quelqu'un qui a fait profession de protéger et de soigner les gens.
Alors j'ai tous les vaccins obligatoires qui ont été faits, hépatite, enfin, mon carnet vaccinal il est complété. J'ai tous les vaccins obligatoires, j'ai tous faits.
Mais celui-là, tu veux pas?
Celui-ci, j'ai pas envie.
Pourquoi?
Voilà, je vais être franc parce que, un, je fais aucune confiance dans le gouvernement. Moi, j'ai pas oublié que quand ce matin il dit que les soignants ont propagé le virus, même s'il dit involontairement, j'ai pas oublié que moi l'année dernière, les blouses jetables, on les lavait le soir parce qu'on n'en avait pas. J'ai pas oublié que des masques, on n'en avait pas. Que les masques qu'on était censé garder 4 heures ou 6 heures, on les gardait toute une journée. Qu'à la fin, on les respirait, ils peluchaient, on les respirait parce qu'on n'en avait pas assez.
Mais donc, c'est de la vengeance, Franck?
C'est pas une question de vengeance. C'est une question, c'est que pour moi, il n'y a aucune légitimité aujourd'hui à parler, quoi. Je me dis, des gens qui aujourd'hui nous traînent dans la boue en nous disant que c'est nous qui véhiculons nos patients alors que lui-même n'a pas fait le nécessaire. Il y a un an, quand on nous expliquait que les masques ne servaient à rien.
Donc, c'est une démarche politique de ta part. C'est une démarche politique contre le gouvernement.
C'est même pas contre le gouvernement, c'est vraiment, je me dis, ils nous ont pris pour des imbéciles. Ils passaient à la télé tous les soirs en disant, voilà, bon bah voilà, on ne manque de rien. Nous, on faisait des collectes pour récupérer des masques et des blouses. Ils nous ont mis dans une situation où, effectivement, pour moi, ils ont une responsabilité aujourd'hui, eux, devant...
Mais quel rapport avec le fait de se faire vacciner, Franck?
Et ben, la vaccination, pour moi, effectivement, après, ça c'est de façon plus... Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est que j'estime que chacun doit prendre son risque. Moi, mes parents, je les ai fait vacciner parce qu'ils ont des comorbidités. Il y a une maladie pour les poumons, donc eux, je les ai fait vacciner. Moi, j'ai aucun problème de santé. J'estime que je vais pas me faire vacciner.
Voilà. Et donc, quitter le soin, ça te fait rien? Enfin, j'imagine qu'il y a
un sacerdoce. J'en arriverai là. On est plusieurs mois, on est plus dans mon service. À peu près la moitié de vaccinés, la moitié de non vaccinés. Pour être franc, moi, le mois d'avril et le mois de mai, je travaille en 12 heures, j'ai eu 5 jours de repos. Donc, j'ai travaillé 25 jours, 25 fois 12 heures parce qu'on manque de personnel. Je mets au défi aujourd'hui à un hôpital de licencier des infirmiers. Voilà. Aujourd'hui, on manque de personnel. Donc, je les mets au défi. S'ils veulent me licencier, il n'y a pas de problème. Ils trouveront personne.
Moi, le truc, Franck, quand je t'entends, c'est que je me dis, Franck, il faut que tu quittes l'hôpital. Il faut que t'arrêtes parce que ne pas se vacciner pour des raisons politiques et pour faire chier le gouvernement, c'est grave.
C'est ma liberté, je prends mon risque.
Bah oui, mais justement, c'est pour
moi,
ça qu'il faut que tu
arrêtes. Les patients de mon âge, j'en ai pas vu, moi.
Franck, moi, j'entends tes arguments, mais sauf le dernier, je prends mon risque. T'as le droit de prendre ton risque, mais le problème, c'est que tu mets en danger les gens que tu côtoies.
Robert,
tu prends ton risque, mais tu prends aussi le risque des autres.
Laurent, si le vaccin est efficace, celui qui est vacciné n'a pas à avoir peur de quelqu'un qui n'est pas vacciné.
Mais oui, mais sauf que le virus continue à circuler à cause de gens qui ne sont pas vaccinés.
Lui qui est vacciné aussi, il peut aussi être porteur. Moi, mais il sera quand même porteur, il pourra quand même le véhiculer aussi.
Donc tu es pour le règne du chacun pour soi, quoi.
Pas forcément chacun pour soi, mais
monsieur docteur Sebag, monsieur,
je cours pour les faire.
Moi, je respecte tout à fait, et puis je comprends un certain nombre de vos arguments. L'argument individuel, moi, je peux le comprendre, mais il y a le côté altruiste des choses. Maintenant, moi, on répète depuis 6 mois un certain nombre de choses sur l'efficacité du vaccin. Moi, quand je vois les gens qui rentrent à l'hôpital aujourd'hui, parce que ça commence à revenir à l'hôpital et en réanimation, ce sont des gens, pour la plupart, qui ne sont pas vaccinés. ça permet de se poser quand même un certain nombre de questions. La rancœur que vous pouvez avoir, moi je peux tout à fait la comprendre, on en a nous aussi comme médecin et comme médecin hospitalier, mais je veux dire aujourd'hui la seule solution pour sortir du tunnel, et vous êtes quelqu'un de responsable, vous êtes dans le domaine de la santé, vous avez choisi ce métier, je suis extrêmement surpris, même un petit peu choqué du fait que vous ne vouliez pas vous faire vacciner.
Franck,
je comprends que vous pouviez, pas de souci, mais encore une fois... Moi, j'ai des gestes barrières, j'ai un masque, j'ai un SFP2 sur le, j'ai tout ce qu'il faut pour protéger, me protéger, protéger les autres. Voilà, je le ferai pas.
Eh ben, écoute, on t'aura pas fait changer d'avis. Merci, Franck, d'être venu débattre avec nous dans Neumann.
D'autant plus que.
Moi, j'ai de la famille en Israël aujourd'hui qui sont fait vacciner et autres, voilà, et que ça recommence à refermer aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment efficace?
Oui, mais comme tu le sais, c'est un bon exemple.
Il n'y a pas de décès, il n'y a pas d'augmentation à l'hôpital. Ils font des formes, effectivement. Il peut y avoir des recontaminations sur des gens vaccinés, mais ils ne font pas de formes graves, ils ne sont pas hospitalisés et il y a quasiment très peu de décès.
Oui, et puis surtout, il y a 35% de la population israélienne qui n'est pas encore vaccinée.
Merci Franck, en tout cas, d'être venu débattre avec nous dans Neumann Le Chypre. On vous attend au 32-16 pour parler de ce serrage de vis sanitaire d'Emmanuel Macron annoncé hier. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend. Robert Sebag reste avec nous, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière. Robert, on parlera des soignants. Peut-être qu'il fallait un mot quand même pour eux hier. C'est peut-être ce qui a manqué dans le discours d'Emmanuel Macron. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre. RMC, midi 14h. Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
J'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui, au plus vite. 9 millions de doses vous attendent dès aujourd'hui, qui n'ont pas encore été injectées, et nos commandes continuent d'arriver. Que ce soit donc près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous vacciner. C'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres.
Voilà, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Le message d'Emmanuel Macron hier soir, est-ce qu'il a eu raison de serrer la vis? C'est notre question jusqu'à 13h pour Laurent Neumann. C'est oui, et d'ailleurs les chiffres des rendez-vous de vaccination sont la preuve que c'est efficace. On était à 11h sur Doctolib, à 1,3 million de Français qui avaient pris rendez-vous. Pour Alexandre Devecchio, c'est de l'autoritarisme qui va monter les gens contre les uns contre les autres. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Vous êtes très partagée sur le serrage de vis d'Emmanuel Macron. On est sur une égalité parfaite, 50-50.
Ça durera pas.
Parce que tu vas convaincre.
Ben oui, attends, évidemment.
Tu es là pour découdre. Robert Sebag est avec nous, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et on va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Élodie qui nous appelle depuis Montauban, qui est opératrice en centre d'appel. Bonjour Élodie.
Oui, bonjour l'équipe.
Toi, tu es vaccinée avec tes deux doses. Est-ce que tu as l'impression qu'il fallait une carotte pour pousser les Français?
Ah oui, mais il n'y a que comme ça que ça marche. La preuve avec les prises de rendez-vous hier soir, on l'a vu déjà avant avec par exemple les sanctions pour les autorisations. Si vous ne l'aviez pas, c'était une amende. Là, il fallait ça de toute façon. C'est le seul moyen de s'en sortir. Et les Français, capricieux comme ils sont, ou peut-être de nuls comme ils sont, il leur fallait quelque chose pour y aller.
Élodie, il y a quand même un petit truc qui est un peu triste dans tout ça. Moi, autant je suis favorable à ce tour de vis d'Emmanuel Macron hier, mais très honnêtement, ça fait des semaines et des semaines qu'on explique qu'il faut se vacciner pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger les autres. Et il faut attendre qu'on menace les gens de ne plus pouvoir rentrer dans un café, dans un restaurant ou à Disneyland pour qu'au fond, les gens
Alexandre,
se disent
je vais me vacciner. Toi, Alexandre, tu disais ça suffit, ils vont le faire tout seul, etc. Tu vois, quand tu leur dis tu vas plus au resto,
il y a une accélération. Encore une fois, il va falloir vacciner très vite. Je pense qu'il met les gens dans l'embarras parce que les délais sont bien sûr trop courts, notamment pour les enfants. Ça va être quand même
il va y avoir des délais.
Il y aura un peu de souplesse.
Et il faudra de la souplesse. Moi, je crois que c'est son propre échec aussi. Je constate qu'il y a des chefs d'État qui ont quand même entraîné beaucoup plus que lui, quelqu'un dont on dit beaucoup de mal dans les médias français, qui s'appelle Boris Johnson, qui a 80% de vaccinés. Les Anglais, il y a eu un vrai élan. Si Laurent Neumann, ne dites pas le contraire. Donc je pense qu'il y a un problème avec Emmanuel Macron, et je pense que le problème avec Emmanuel Macron, on va pas s'arranger avec la méthode qu'il a employée. Alors certes, il y a une partie des gens qui iront sous la contrainte, mais ça va créer, je vous dis, un climat délétère au sein du pays.
Non, mais comme tu me dis, je suis obligé de te répondre. Il y a des tas de pays, la grande Grande-Bretagne notamment, mais tu pourrais prendre l'exemple d'Israël ou pire l'exemple des États-Unis où Joe Biden a promis que le 4 juillet 90% de la population adulte serait vaccinée. Ils sont comme en France confrontés à un plafond de verre parce que des gens qui soit sont contre le vaccin, soit sont éloignés du vaccin. On ne le dit pas assez. Parmi ceux qui ne se font pas vacciner, il y a beaucoup de gens qui sont éloignés du vaccin. Il faut aller vers eux. Et donc ceux-là, c'est pas des anti-vaccins ou des anti-Macron ou des anti-je ne sais quoi. C'est des gens qui sont éloignés du vaccin. Il faut aller vers eux. Tous les pays du monde sont confrontés à ça.
Et donc c'est pas avec le pass sanitaire qu'on va aller vers eux.
Mais ça ne suffira pas.
Qui viole tous nos principes. Au passage, les fichiers S sont mieux traités aujourd'hui que les Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Pardon, c'est la réalité. Qu'est-ce que vous auriez dit, Laurent Neumann, si on avait mis un bracelet électronique qui marche de préférence à tous les fichiers S islamistes connus pour radicalisation? Je suis sûr que vous auriez été le premier à hurler au viol des libertés publiques.
Parce que je t'aurais dit. Non, mais attends, parce que là,
après,
tu changes totalement. Excuse-moi. Tu viens de dire une énorme bêtise. Je vois bien le côté idéologique derrière, mais tu viens de dire une énorme bêtise. Je te rappelle qu'un fichier S n'a commis aucun délit, aucun crime.
Le non vacciné non plus. Et il est traité aujourd'hui.
Ce
que tu dis est très intéressant.
Et personne n'a demandé d'être un bracelet électronique au non vacciné.
Je pense que ton argument contredit. En fait, tu nous expliques que le non vacciné commet un crime.
Alexandre, que nous soyons en retard, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque nous, ça fait plusieurs semaines que nous alertons déjà quand on regardait les chiffres. Bon, ok. Que fallait-il faire? Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas un nouveau confinement. C'est pas couvre-feu, c'est pas fermeture des bars et des restaurants. Le problème, c'est l'arrivée en réanimation, très rapidement, très très rapidement, de personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc, embouteillage en réanimation, on va repasser partout, que uniquement du Covid. Moi, j'ai très très peur qu'on reparte sur des déprogrammations. J'ai très très peur de ça, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la multiplication des lits. J'aurais voulu, là je me permets d'ouvrir cette parenthèse, pour peut-être pas stigmatiser les soignants, même si les annonces hier n'étaient pas faites, que les soignants, enfin tous les gens qui étaient en contact, qu'on fasse un petit geste. On fasse un petit geste aussi qui n'a pas été fait, de dire peut-être une revalorisation. Il fallait quand même donner aussi un signe positif de reconnaissance du travail qui a été fait. Il n'est pas question de dire vous êtes horrible, vous êtes responsable. Personne n'est responsable. C'est une responsabilité collective. Il n'y a pas que les infirmiers, il n'y a pas que les médecins, il y a aussi des gens qui s'occupent des cuisines, il y a tous les accompagnants à domicile. Et c'était bien qu'on élargisse un petit peu ça. Mais un petit geste, en particulier dans les EHPAD, où on sait effectivement que les gens, que d'abord on n'en trouve pas beaucoup, donc il faut quelque part les stimuler.
Peut-être
qu'il fallait parler de revalorisation salariale pour un certain nombre de personnes.
Dans les EHPAD, je vais aller dans le bon sens.
Bienvenue.
Mais dans les EHPAD, zéro geste. Et pour le moment, le gouvernement se contente de dire, il y a eu le Ségur de la santé, on a fait un geste sur les salaires pour les personnels des hôpitaux. Mais pardon, entre le début de la pandémie et aujourd'hui,
c'était combien? C'était moins de 100 euros, autour de 100 euros?
Non, c'était 181.
Oui, mais enfin,
voilà. Mais au-delà du salaire, il y a un problème de reconnaissance des personnels à l'hôpital, avec des temps de travail qui dépassent toutes les règles autorisées par le droit du travail. Le droit du travail européen, c'est 48 heures. Dans certaines disciplines, on est à 70, voire 80 heures par semaine pour le même salaire. Et ça n'a pas été entendu. Pardon. Le Ségur de la santé. Parce que
je le défends depuis des années.
J'entends énormément de gens dire pourquoi on n'a pas créé des lits de réa. Mais d'accord, mais des lits de réa, faut créer faut engager du personnel de réanimation. Mais en revanche, les temps de travail, les personnels qui ne sont pas en réanimation, on peut engager des gens. Et on ne l'a pas fait.
Mais déjà maintenir les gens, Laurent, qui sont en poste aujourd'hui.
Absolument, mais tu as raison.
Et c'est vrai qu'il y a des départs.
Et que
des gens qui partent.
Et au-delà de la vaccination. Je pense que le chantage qui est pratiqué ne va pas aider à endiguer les départs. Moi, je pense que effectivement, on aurait pu faire autrement, aller vite. Même si moi, je pense que pour le moment, il y a pas d'hospitalisation. Il y a certes, ça circule plus, mais on est quand même de plus en plus vaccinés. On aurait pu faire autrement, et je crois que ça va laisser des traces.
Alors, on va reparler des départs à l'hôpital. Un grand merci, Élodie, d'être venue débattre avec nous dans Neumann le chiffre. On était avec Fabrice qui nous appelle d'Antibes. Fabrice, toi, ta femme est infirmière et elle préfère quitter l'hôpital plutôt que de se vacciner.
Oui, bonjour à tous.
Salut Fabrice.
Voilà, comme je l'expliquais à Thomas tout à l'heure, lorsqu'il m'a recontacté suite à mon appel.
Au standard, oui.
Tout à fait. Nous habitons en Tille. Ma femme est infirmière en service spécialisé. Je pense que la personne qui est à l'antenne, je me rappelle pas son nom.
Robert Sebag.
Voilà, excusez-moi pour ça. Il va savoir de quoi je parle. Elle est aux soins intensifs en pneumologie.
Ouais.
C'est un service qui est très très lourd, très très lourd. Comme l'a rappelé Laurent et Alexandre, beaucoup d'heures. C'est des journées de 12 heures, mais c'est souvent 13 heures, 13 heures et demie. Je peux vous dire qu'hier, pourtant, moi, j'ai la chance d'être chef d'entreprise.
Ouais.
Et je vais vous dire, je vais sortir ma femme de ce bourbier. Parce que ça fait des années que je vois ma femme rentrer les soirs. Elle n'en peut plus. Elles n'en peuvent plus. Moi, je ne suis pas là pour diviser sur vaccin ou pas vaccin.
Pourtant, tu dis que ta femme, elle ne veut pas se vacciner.
Par contre, excusez-moi.
Est-ce que tu dis du coup, tu veux la sortir de ce bourbier, ça n'a rien à voir presque avec la vaccination, c'est l'épuisement.
Non, vous trompez. Écoutez-moi. Il n'y a pas que le Covid. Et ça, il faut bien que les gens se mettent ça dans la tête. Moi, je suis curieux de savoir sur les plateaux, que ce soit de télévision ou de radio, les personnes qui viennent parler avant que le Covid arrive, elles savent même pas à quand remonte le vaccin sur lequel ils ont été confrontés. Ça, j'en suis persuadé. Donc aujourd'hui, on vient pointer du doigt les soignants. C'est scandaleux. Scandaleux.
Fabrice.
Je peux vous dire que j'ai 10 salariés et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai laissé libre choix à tout le monde. Il faut se responsabiliser. Les gens aujourd'hui doivent contrôler. Il y a des gestes barrières. On nous a imposé certaines règles. On les a respectées. Maintenant, je suis pas là pour polémiquer. Je vous dis simplement que je suis scandalisé parce que aujourd'hui, les infirmières, on n'a pas à leur donner de leçons de morale. Non. Ce sont des femmes et des hommes. Quand ils arrivent sur leur lieu de travail, ils savent pertinemment ce qu'ils ont à faire. C'est pas à eux qu'on va leur apprendre.
Comment ton épouse explique?
Excusez-moi juste pour finir.
Réponds, c'est un dialogue. Tu vois, c'est, faut qu'on échange, toi et moi.
Oui, Fabrice.
Comment ton épouse justifie qu'alors qu'elle a fait vocation de soigner, de protéger les gens,
exactement,
comment elle t'explique qu'elle ne veut pas se faire vacciner au risque de mettre les gens à l'hôpital en danger?
Alors, puisqu'on se tutoie, non. Alors moi, je pense que c'est l'inverse. Je vais dire pourquoi. Moi, ma femme, je l'ai connue. J'étais très jeune. Ma femme, depuis qu'elle est gamine, elle a toujours voulu faire ce métier. Ça fait 25 ans qu'elle est dans ce métier. Elle s'est dévouée corps et âme, hein, à faire des heures. Aujourd'hui, vous parliez d'augmentation de salaire, mais on n'a pas honte de dire ça. Vous savez les heures qu'elles font. Vous savez. Et il y a une chose que je voudrais préciser aussi. C'est que tout le monde parle des infirmières qui sont fait vacciner à 60%. Vous savez la pression qu'elles ont reçue? Vous savez, la pression qu'elles ont reçue, c'est des jeunes infirmières, la plupart du temps. Donc, le vaccin aujourd'hui, moi, je suis d'accord.
Oui, mais excuse-moi, Fabrice, tu ne me réponds pas. C'est pourquoi elle ne se fait pas vacciner? Tu ne m'as pas répondu.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de recul sur ce vaccin. Et elles sont bien placées pour le savoir. Aujourd'hui, vous ne dites pas tout. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il peut y avoir des effets secondaires dans tous les médicaments. Mais là, aujourd'hui, ces femmes-là, ces hommes-là, elles sont confrontées tous les jours. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on parle du Covid-19, on parle de... Mais dites-moi, vous croyez pas qu'il y a d'autres, épidémies, d'autres. Est-ce qu'on parle de la tuberculose qui circule, la tuberculose qui vient de l'Est et s'en suit? Est-ce que les gens sont vaccinés? Est-ce que les gens qui viennent rendre visite, excusez-moi du peu, dans les services, est-ce qu'ils sont vaccinés? Est-ce qu'on, vous savez?
Alors justement, on va les obliger à se faire vacciner.
Monsieur, moi, je sais le métier que pratique votre épouse. Et en particulier en réanimation respiratoire, c'est en face du service dans lequel je travaille, donc ils font un boulot absolument extraordinaire et effectivement pas assez rémunéré. Sur les autres maladies que le Covid, mais monsieur, moi j'abonde à 200%. Hein, moi je m'occupe de tuberculose, je m'occupe de maladies infectieuses, à la Pitié-Salpêtrière. Vous avez raison, il y a la tuberculose, il y a le sida, il y a d'autres infections, des résistances aux antibiotiques, et justement j'ai envie qu'on s'en sorte très très vite avec ce Covid pour pouvoir s'occuper du reste, parce que ma crainte, et c'est ce qu'on a vécu pendant un an et demi, c'est que les gens ne venaient plus, les gens séropositifs ne venaient plus, les gens tuberculeux ne prenaient plus régulièrement leur traitement, ils avaient disparu, donc ils étaient contagieux. Et donc voilà, moi je veux vite m'en sortir avec ce Covid pour reprendre le train habituel des maladies infectieuses, et il y en a beaucoup malheureusement, et c'est vrai que la seule solution aujourd'hui, monsieur, c'est le vaccin. Alors on peut pas attendre des mois et des mois, il y a 3 milliards de personnes dans le monde qui ont été vaccinées, les effets secondaires, il y en a, hein, le risque zéro, zéro, il n'existe pas. Mais je veux dire, attraper la Covid, c'est beaucoup plus dangereux que d'avoir ce vaccin. Donc voilà, s'il y avait eu des effets secondaires graves sur 3 milliards de personnes, on les connaîtrait. On en connaît certains, mais c'est d'une probabilité extrêmement faible. Et il faut pas, si vous voulez, que la peur du vaccin remplace la peur de la maladie, du Covid, comme d'autres maladies, monsieur. Et moi, je respecte tout à fait. Mais il faut que votre femme, qui fait ce métier merveilleux en réanimation respiratoire, en plus, avec toute la pathologie respiratoire autre que Covid, elle devrait se faire vacciner. C'est un exemple. C'est un exemple extrêmement important. Et il faut aussi la valoriser à tout point de vue parce qu'elle fait un boulot formidable.
Non, mais vous avez pas compris, mais je la valorise bien plus que vous pouvez l'imaginer. Et je respecte. Et vous savez quoi? Moi, je suis, je vous connais pas, mais bon, je vais essayer d'apprendre à vous connaître. Je sais très bien ce que vous faites. Moi, je suis conscient parce que je suis confronté depuis 25 ans. Ma femme me raconte ce qui s'y passe. Mais moi, je vous dis pas qu'on est contre le vaccin. Je vous dis simplement. Après maintenant, d'une manière ou d'une autre, certaines ne vont pas avoir le choix, tout le monde va avoir le choix, d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, il y a une chose, on aurait pu faire autrement, je peux vous le dire. Et moi aujourd'hui, je suis triste de voir que, et je suis là pour soutenir le personnel soignant, parce que ce sont des gens qui sont formidables, ils font des heures à plus en finir, et aujourd'hui on les pointe du doigt, et ça, c'est scandaleux, scandaleux, c'est tout ce que je voulais dire. Après maintenant, les gens, ils décident de se faire vacciner, je suis entièrement d'accord. Moi le premier, vous savez quoi, c'est ce que j'ai dit à Thomas, votre collaborateur ce matin.
T'es vacciné.
On attendait un petit peu parce que on est tous un petit peu réticents. On sait pas comment faire. Puis dites-moi une chose, que ce soit Macron ou ses prédécesseurs, mais l'hôpital, ils l'ont abandonné.
Ah bah ça, tu trouveras tout le monde d'accord sur le plateau avec toi, Fabrice. Il y a au moins deux choses sur lesquelles on sera d'accord, c'est la revalorisation salariale, la revalorisation des carrières et le fait de rendre l'hôpital ne serait-ce que plus vivable pour les gens qui y travaillent. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir été avec nous dans Neumann le chiffre. On continue de discuter ensemble. Emmanuel Macron, ce serrage de vis effectué hier, est-ce que vous le trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça mal? On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann le chiffre. RMC, midi 14h. Neumann le chiffre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann le chiffre, on est ensemble jusqu'à 14h. Obligation vaccinale, passe sanitaire. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de serrer la vis hier soir? Pour Laurent Neumann, oui. Et d'ailleurs, les chiffres de rendez-vous des vaccinations sont la preuve que c'est efficace. Pour Alexandre Devecchio, non, c'est de l'autoritarisme qui va monter les gens les uns contre les autres. On est toujours avec Robert Sebag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et on retourne au 32-16.
RMC, Neumann le chiffre.
32-16.
Et on est avec Valérie qui nous appelle de Saint-Étienne, qui est assistante commerciale. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Toi, salut, pour toi, Valérie. Tu trouves que Macron a eu raison hier de taper du poing sur la table?
Oui, je trouve qu'il a eu raison pour les adultes. Ouais. Moi, ce qui m'a embêtée et choquée, c'est d'imposer le pass sanitaire pour les enfants de 12 ans et plus.
Oui, en termes de timing, ne serait-ce que ça, c'est compliqué.
C'est ça, 21 juillet. Moi. Alors nous, avec mon mari, on est vaccinés. On a une ou deux doses, ça fait un petit moment. Aujourd'hui, on a deux enfants, un de 8 ans, un de 14 ans. On part en vacances, pas de resto, pour l'une, en tout cas, pour la plus grande, puisqu'elle ne sera pas vaccinée à temps. Pas de parc d'attraction, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait?
Pardon, ça t'incite pas, Valérie, à aller la faire vacciner?
On y a pensé, mais on s'est dit que on allait se faire vacciner et que les enfants, on pensait que ça viendrait un peu plus tard parce qu'on n'a jamais vraiment entendu dire qu'il fallait absolument vacciner nos enfants.
Alors Valérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je sais pas si ça règle ton problème, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai lu ce matin les recommandations du ministère de la Santé. Si ta fille se fait vacciner demain, mettons, tu lui prends rendez-vous demain, dans 3 semaines, elle a sa deuxième dose, on considérera qu'elle aura sa vaccination complète 3 jours à 4 jours après la deuxième dose. Ça veut dire qu'en moins d'un mois, elle peut avoir sa vaccination complète. Ça peut peut-être résoudre ton problème.
Oui, mais moins d'un mois, ça veut dire le 15 juillet. Ça veut dire qu'il faut partir après le 15 août. Moi, je me dis, tous les gens qui vont être en vacances là la semaine prochaine et qui vont partir avec des ados, ben, ils font comment? Ils peuvent rien faire. On peut faire des choses, mais je veux dire, les restos, ben, c'est terminé, on n'ira pas. Hein. Voilà.
Mais donc, je pense que là-dessus, quand même, il va y avoir
il y aura de la souplesse.
Je pense qu'il faut aussi prendre en considération la première dose. On sait que, bien sûr, il faut deux doses pour avoir une efficacité maximale, mais on sait que déjà une dose vous donne quand même une certaine protection. Et qu'en attendant, si vous voulez, en tous les cas, pendant les semaines à venir, déjà faire une première dose, donner un certificat comme quoi on a déjà eu une dose et avec une date sur la deuxième dose, ça devrait rassurer.
C'est ce que tu vas faire, toi, Valérie ? C'est ce que tu vas faire ?
Ben, c'est ce que je vais faire, oui. Alors, j'avoue
qu'il y a une vraie recommandation là-dessus.
Ce matin, bon, il n'est pas là avant lundi, donc je le rappellerai lundi. Parce que nous, on a nos vacances mi-août. Mais je me dis, voilà. Et puis, à 14 ans, enfin, on n'a pas trop de recul sur toutes les possibilités de vaccination, que ce soit Pfizer ou autre.
C'est Pfizer pour les plus jeunes.
Je préfère demander à, voilà. Oui, voilà.
Toutes les études, je veux vous rassurer, madame, toutes les études ont été faites. Et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup moins de risques chez les jeunes, chez les plus jeunes que chez les personnes âgées. Il faudra parler aussi des tests. On n'a pas parlé assez des autotests. On n'en parle plus alors que ça peut être extrêmement utile. Et puis en particulier des tests salivaires et non pas, ça évite quand même aux jeunes adolescents à partir de 12 ans, au lieu d'aller faire un écouvillon dans le nez qui est pas toujours très agréable. On sait qu'il y a les tests salivaires, on n'en parle plus. Donc je pense qu'il faut revenir quand même sur l'utilisation des autotests, en tous les cas pendant un certain temps, ainsi que des tests salivaires plutôt que les tests PCR classiques avec l'écouvillon dans le nez.
Non, mais le docteur Spivak a raison, mais pour l'instant c'est pas une recommandation. Enfin, tout le monde a l'air d'être sûr que l'État va être conciliant. Je suis désolé, ça n'a pas été dit hier
soir.
On
espère être écouté.
Du reste, encore une fois, pourquoi le message va mal passer quand même sur les enfants? On a dit tout et le contraire de tout. On a commencé par expliquer qu'ils n'étaient pas vecteurs, ensuite qu'ils étaient vecteurs, qu'il fallait fermer les écoles, pas fermer les écoles. Donc on ne s'y retrouve plus. Et là, on a quand même l'impression que ça n'a pas été du tout dans le débat sur la vaccination des plus jeunes et que c'est une manière de forcer la main des parents là en les mettant au pied du mur à quelques jours des vacances.
Excuse-moi, tu veux débattre de quoi? Qu'il y ait un débat entre scientifiques qui à un moment donné est tranché par les scientifiques, c'est une chose, mais nous toi et moi là qui avons fait zéro année de médecine, tu veux débattre de quoi?
Est-ce qu'on a préparé l'opinion à vacciner les enfants de 12 ans? Moi je suis pas certain. Est-ce que vraiment c'est nécessaire tout de suite pour avoir l'immunité collective? Est-ce qu'il faut pas se concentrer sur les personnes à risque, comme l'a dit Robert Sebag, qui sont éloignées de la vaccination, qui ont des comorbidités, etc.? Voilà, moi je pense que ça c'est typiquement quelque chose qui peut braquer et qui, c'est le retour de l'absurdiston.
Arrête. Tous les scientifiques te disent
vos enfants sont déjà vaccinés.
Ils ont 25 ans, c'est trop facile. Et l'une des deux est médecin, donc autant te dire qu'elle s'est fait vacciner il y a déjà 5 mois. Mais écoute-moi juste une seconde. Tous les scientifiques te disent aujourd'hui qu'évidemment il faut aller chercher les populations les plus à risque, c'est-à-dire les plus âgés, ceux qui sont atteints de maladies de longue durée. Mais il se trouve que c'est dans la population la plus jeune que circule le plus le virus. Et si c'est là où ça circule, ça finira par arriver chez ceux qui sont à risque. Donc en réalité, il faut faire les deux en même temps.
Vas-y Valérie.
Laurent, quelle différence entre un enfant de 12 ans et un enfant de 10 ans? Enfin, je veux dire, moi, mon enfant de 8 ans...
Là, c'est à Robert qu'il faut poser la question.
Madame, je comprends tout à fait votre question. Mais là, il faut être extrêmement rigoureux. Les études qui ont été faites à partir de 12 ans. On peut pas s'amuser avec ça. Donc là, on a des études extrêmement fiables, extrêmement strictes, qui montrent effectivement qu'à la fois ce vaccin est efficace et qu'il n'entraîne pas d'effets secondaires particuliers ou gravissimes. Donc ça me paraît quand même important. 10 ans, non, il n'y a pas eu encore d'essais. Il y a des essais qui sont en cours pour aller même beaucoup plus bas que 10 ans, mais aujourd'hui, c'est 12 ans. C'est 12 ans parce que c'est des études qui sont faites, qui sont validées, avec un enregistrement en bonne et due forme, aussi bien aux États-Unis qu'à l'Agence européenne du médicament. Donc c'est 12 ans.
Mais moi, je ne suis pas contre toute la vaccination. Vraiment pas. Ce que je trouve, c'est le timing qui nous a été donné hier.
Ça, je te comprends.
Depuis le début, c'est comme ça. On a fermé d'un coup le lendemain. Et je trouve que c'est dommage parce que je pense que les décisions seraient beaucoup plus... Enfin, mieux prises par la population si c'était pas du jour au lendemain comme ça, quoi.
Ouais, mais il se trouve que là, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. J'apporte quand même un petit bémol. Ça fait quand même des semaines et des semaines, pour ne pas dire des mois, qu'on incite tout le monde à aller se faire vacciner.
Les enfants de 12 ans, pas tellement. Pour le coup, ils sont vaccinés tous les deux, donc vous pouvez pas accuser ces.
Tous les deux, parce que les adultes, on a été conscients, et puis
Beaucoup de parents se sont dit on fera ça à la rentrée aussi. Hein.
De manière pratique, vous allez aller au restaurant, vous allez mettre votre enfant de côté, le restaurateur qui va déjà vérifier ou pas si vous êtes, vous avez le passeport sanitaire, vérifiera que votre gamin a bien 12 ans et pas 11 ans. On arrive dans un système kafkaïen, je trouve assez malsain. Il y a un petit côté prohibition. On va voir le gendarme qui, je pense qu'il ne viendra pas parce qu'il a mieux à faire, heureusement, et puis parce qu'il est républicain, mais qui va venir à la table des gens, vérifier s'ils ont leur passe sanitaire. On rentre dans du n'importe quoi, je suis désolé. Et franchement, Laurent Neumann, on aurait parlé de ça il y a 6 mois, mais tu aurais dit, mais c'est un régime fasciste. Alors moi, je ne pense pas que ce soit le cas.
Non, c'est des mots que j'emploie pas.
T'as carrément dit que le policier républicain n'interviendrait pas.
On a poussé des cris d'orfraie sur un régime policier.
Non, juste une chose. Il se trouve qu'il y a quelques mois, d'abord, fasciste, c'est des mots que j'emploie pas à tort et à travers, contrairement à d'autres. Je ne parle pas d'État autoritaire, de dictature, ou pire, d'apartheid, etc. C'est jamais les mots que j'emploie. Et deuxièmement, il y a quelques mois, j'étais effectivement contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire pour une raison notamment. C'est qu'il y a quelques mois, il n'y avait pas les vaccins. Et donc, imposer un truc que les gens ne pouvaient pas faire, c'était, là, pour le coup, c'était kafkaïen, c'était l'absurdistan, pour reprendre ton terme. Mais aujourd'hui, les doses sont là. Il y a 9 millions de vaccins qui n'ont pas été injectés dans le bras des gens. Donc, on peut y aller pour faire le vaccin. Alors oui, je comprends Valérie, parce que les jeunes, on leur a dit il y a quelques jours, et il faut laisser aux parents le temps de se retourner. Mais pardon, on peut aller faire vacciner aujourd'hui les gens.
Et on va continuer à parler vaccination à partir de 13h. Robert Sebag reste avec nous. On parlera des contrôles d'identité permanents. Est-ce que ça va pas changer votre vie sans arrêt de devoir montrer votre passe? On va continuer ensemble de parler du sanitaire. Mais avant, Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Vous avez tranché, vous êtes finalement 59% à avoir répondu oui. Emmanuel Macron a eu raison de serrer la vis.
Tu vois, je te l'avais dit.
Oui, je sais. Je sais qu'Emmanuel Macron, sur le plan du marketing politique, sur le coup, est très bon. Et puis, on va réduire le débat de la présidentielle au sanitaire. Je pense que la démocratie va beaucoup y gagner.
Merci beaucoup à Valérie qui est venue débattre avec nous. On va jouer au C'est quoi ça ?
RMC Neumann Le Chypre.
Le C'est quoi ça ?
Et on joue pour gagner un pass de 2 jours avec une nuit au Futuroscope. Au C'est quoi ça ? On joue avec Julie et Olivier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Julie, toi tu es infirmière, tu nous appelles de Maudre. Est-ce que tu veux jouer avec Laurent ou avec Alexandre ?
Avec Laurent.
Salut.
Alors, Julie, Laurent.
Salut.
Et Olivier, toi tu es à Cublac, tu es responsable de SAV dans l'automobile. Je rappelle à Robert Sebag qu'il n'a pas le droit de jouer, qu'il n'a le droit de rien dire du tout. Il a le droit d'éteindre son micro. C'est parti, première question. Entre Julie et Olivier, vous buzzez avec votre prénom avant de donner votre réponse. Il s'est adressé aux Français hier devant 22 millions
Julie,
de téléspectateurs.
Julie Macron, Emmanuel Macron.
Julie, Emmanuel Macron, c'était facile. La première question. Deuxième question. Entre Laurent et Alexandre, quelle application a été saturée quelques
Laurent,
minutes
Alexandre.
Laurent.
Doctolib.
Olivier.
Oui.
Doctolib,
et c'était
pas
à Laurent. Là, par contre, Olivier, c'est à toi face à Julie. C'est parti. Troisième question. Quelle personnalité de la famille royale britannique s'est dite écœurée par les insultes racistes adressées aux joueurs anglais après la finale de l'Euro?
Le prince. Julie, le prince.
Oui, le prince, lequel?
Le prince Charles. Le prince Harry.
Non, c'est l'autre.
Non, il en reste
son frère.
Prince, son frère, le prince
Olivier, le prince William.
Julie, tu nous as fait toute la famille, là. C'est pas possible. C'était le prince William. C'est le point va à Olivier. Question entre Laurent et Alexandre. Comment s'appelle le prochain film Disney qui sortira le 24 novembre au cinéma?
Luca.
C'est déjà sorti ça.
Ouais, c'est déjà.
Alors vas-y, là, je te laisse faire. Walt Disney, c'est pas mon truc.
Rap princesse, je sais pas quoi.
Quel snob. Non, c'est Encanto, l'histoire d'une famille colombienne extraordinaire. Ça sort le 24 novembre.
Je pense qu'il n'y a pas un auditeur qui était au courant. Là.
Question entre Julie et Olivier. D'après un sondage Ipsos, 58% des Français pensent qu'ils ne devraient pas avoir. Attendez, je vous la refais. D'après un sondage Ipsos, 58% des Français pensent qu'il ne devrait pas avoir lieu à cause de la pandémie. De quoi s'agit-il ?
Julie, la réforme des retraites.
Ah non, c'est pas ça, mais ça aurait pu, mais c'est pas ça. Non, ça va avoir lieu cet été. C'est dans pas très longtemps. Ils sont plusieurs, ils font du sport.
C'est Olivier
qui a le point. On est à 2-2. Dernière question pour vous départager. Question entre Laurent et Alexandre. Où aura lieu le défilé militaire du 14 juillet?
Bah, sur les Champs-Élysées, à
bah
Paris.
Bah oui, bah fais prendre pas ce petit air.
Voilà, Julie, on a
c'est
gagné.
Donc Julie qui gagne son séjour au Futuroscope.
La fausse question piège, vous savez.
J'ai cru qu'il y avait un piège.
C'est toi, Julie, qui parle.
Qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer avec
Futuroscope. Le C'est quoi ça sur RMC avec le Futuroscope. Embarquez à bord de la nouvelle attraction Objectif Mars et devenez astronaute. Sensation garantie. Futuroscope, toutes les forces d'attraction.
Dans un instant sur RMC, êtes-vous prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent? C'est jusqu'à 14h, on vous attend à tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann le chiffre.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Neumann le chiffre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Closier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous. On continue à débattre évidemment des annonces d'Emmanuel Macron. C'est Laurent Neumann.
C'est bon Alexandre, faut que tu appuies sur ton micro.
Salut à tous, c'est Alexandre Devecchio.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. Passe sanitaire au restaurant, dans le train, au cinéma, dans les commerces. Prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent? C'est notre question jusqu'à 14h. À 13h50, c'est bon à savoir, de l'info et de la bonne humeur avec Lisa Marie Marquez. On parle de quoi, Lisa Marie, aujourd'hui?
On va parler d'un véritable séisme à Saint-Émilion, près de Bordeaux. Deux grands châteaux ont décidé de quitter le classement des grands crus et ça fait beaucoup de bruit.
Passe sanitaire, s'il vous plaît. Voici désormais ce qu'on va vous demander partout. Passe sanitaire au restaurant, au cinéma, dans le train, dans l'avion. Ce Graal du retour à la vie normale ne concernait jusqu'à présent que les grands rassemblements. Désormais, votre QR code vous sera demandé plusieurs fois par jour, qu'il s'agisse de la version papier ou la version numérique. Le prénom, le nom et la date de naissance du porteur y figurent. Le gouvernement précise d'ailleurs qu'un justificatif d'identité devra être demandé pour éviter les fraudes. Il y aura des contrôles de passe sanitaire par des restaurateurs, des hôteliers, des responsables de salles de cinéma. Écoutez, Olivier Véran, ce matin, il a précisé qui allait contrôler qui.
Test PCR ou antigénique, l'un et l'autre, moins de 48 heures.
Qui contrôle? Est-ce que ça veut dire que chaque matin, en prenant son travail, il doit présenter un...
Oui,
un...
et c'est le responsable de la structure, de l'établissement qui reçoit du public, qui est responsable, qui est en charge de contrôler.
Ça veut dire que le patron des employés, est responsable...
C'est lui qui doit vérifier que la personne qui vient travailler est en conformité avec la loi. Bien sûr, c'est du droit commun, ça existe, et il y aura des contrôles qui seront effectués, des contrôles qui seront nombreux, puisque c'est, je dirais, le... à ce prix-là qu'on arrive à éviter de fermer des structures. C'est à ce prix.
Une situation impossible selon certains commerçants qui n'ont pas envie de se transformer en contrôleur d'identité. Écoutez ce responsable d'une salle de cinéma, c'est à Cannes.
Ils ont commencé à le mettre en place là, pour le festival de Cannes. Là, on a pu voir quand on assistait à des séances au Palais. Et c'est vrai que ça faisait rajouter du temps. Déjà que y a le temps de contrôle des tickets, mais si en plus on doit rajouter un pass sanitaire, c'est vrai que ça va être plus long. Il faudra que les clients anticipent ce temps. Et voilà, ça va demander une réorganisation, je pense, de nos séances.
Alors et vous, est-ce que vous êtes prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent, Laurent? Tu dis oui.
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est provisoire. Dès que 90% des Français seront vaccinés, toutes ces mesures vont évidemment disparaître. Donc c'est provisoire et on a tous intérêt à ce que les non-vaccinés aillent se faire vacciner le plus vite possible. C'est pour ça que je suis très heureux de voir que sur la plateforme Doctolib, on est déjà à 1 350 000 personnes qui ont pris rendez-vous, ce qui pour deux doses. Hein. Donc ça veut dire 2,5 millions d'injections en moins de 24 heures. C'est quand même un succès et j'espère que ça va aller vite. Comme ça, on sortira de ces mesures.
Elles ne sont pas encore administrées, les 2,5 millions. Je demande à voir.
Ouais, mais au moins on sera sorti de ces mesures une fois que tout le monde sera vacciné. La deuxième raison, j'entends ce propriétaire de cinéma, j'entends des propriétaires de restaurants, mais pardon, c'est mieux d'avoir un pass sanitaire en ce moment et pour une durée provisoire que d'avoir à refermer au mois de septembre. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Les cinémas qui ont fermé pendant des mois et des mois préfèrent sans doute quand même ouvrir avec cette contrainte que rester fermé. Troisièmement, si on pouvait en finir avec l'utilisation abusive de mots que je trouve honteux, j'ai entendu, y compris des responsables politiques, parler de dictature, d'apartheid, de totalitarisme, etc. Mais ils n'ont jamais été dans une dictature, ces gens-là. Ou alors, ils induisent les gens en erreur et et il faut arrêter. Il faut arrêter d'employer ces mots. Non, c'est pas la dictature de montrer juste un QR code et la carte d'identité. Voilà, c'est quand même pas très 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 compliqué.
Alexandre,
vous avez raison de dire que c'est pas la dictature, puisque c'est en nous enfermant dans une rhétorique comme celle-ci, on oublie de penser. La dictature n'est pas forcément le contraire de la démocratie. Enfin, c'est l'opposé extrême de la démocratie. Mais entre la démocratie et la dictature, il y a parfois la démocratie défaillante, il y a parfois des principes auxquels on fait entorse, et c'est ce qu'on fait là. Je suis même pas sûr que ce soit pas retoqué par le Conseil constitutionnel. Alors en France, c'est un organe politique, le Conseil constitutionnel, donc je pense que ça va passer. Mais enfin, dans un système...
Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, non mais je peux pas te laisser
on
dire
est
ça.
En train d'instaurer...
Excuse-moi,
c'est pas des juristes, c'est des anciens politiques qui sont nommés là au bon vouloir du pouvoir politique. Donc pour moi, c'est un organe politique. C'est l'une des limites de notre démocratie. Et on est en train d'organiser effectivement, temporairement, j'espère, une citoyenneté à deux vitesses. Si Viktor Orban avait fait ça, monsieur, vous, Laurent Neumann, vous auriez poussé encore une fois des cris d'orfraie.
Donc je pense que c'est quelque chose. Expliqué à ce micro que c'était patriotique d'aller se faire vacciner.
Je crois.
C'est pas moi, hein. C'est toi.
Oui, mais
donc les mauvais patriotes, c'est bien ceux qui ne sont pas vaccinés, à tes
pas,
yeux.
Qu'il ne faut pas banaliser cela. Et ensuite, je crois que ça va créer quand même des tensions. On le voit, on a vu cet extrait de ce restaurateur qui ne sait pas comment faire, qui va devoir contrôler ses employés. On va peut-être avoir des gens qui vont dénoncer leurs voisins. Moi, je n'aime pas ce climat de division qu'on instaure dans le pays, d'autant plus que je ne suis pas certain que c'était urgent. On avait réussi le travail de conviction. On est parti d'une minorité de Français qui voulaient se faire vacciner. On en est à une majorité.
Et quand même pas en train de faire croire à ceux qui nous écoutent qu'on a réussi. On aurait donc réussi collectivement à s'adapter au confinement et à 250 jours de couvre-feu, mais on pourrait pas s'adapter au fait d'aller au restaurant montrer un QR code.
Oui, mais c'est
une blague.
Vous avez dit temporaire.
C'est une blague.
En tout cas, ça fait 2 ans que ça dure. Donc ce n'est pas anodin, et je pense que il va falloir retrouver le goût de la liberté après cette crise. Et voilà. Et encore une fois, c'est un la loi sur le... Pardon, vous allez me dire que je change de sujet, mais la loi sur le séparatisme, on n'a pas visé l'islamisme parce que c'était une manière de discriminer, de créer une citoyenneté à deux vitesses. Et vous étiez le premier à défendre ce principe.
Et je vais te dire que tu changes de sujet.
Qu'est-ce que j'ai défendu?
Je pense que vous étiez l'un de ceux qui trouvaient que c'était normal qu'on ne discrimine pas, qu'on ne vise pas directement les islamistes.
Vous vous trompez totalement. Je pense qu'il faut être implacable avec le séparatisme. Comme ça, ça coule le débat.
Non, mais
ça coule le débat.
Bon, allez, c'est un autre sujet. Je dois vous recadrer. Je suis dans l'obligation de vous recadrer, de vous remettre sur le débat du contrôle d'identité permanent. Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, je vous rappelle notre question. Êtes-vous prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent? Pour nous répondre et nous écrire, direction Twitter, Facebook et l'application RMC.
Et avant d'aller au 32-16, on est toujours avec Robert Sebag de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Robert, les contrôles, tu es prêt?
Attention quand même au terme contrôle permanent d'identité. Hein. Je trouve que en termes de... Le mot me surprend un
peu. C'est parce que le pass sanitaire va aller avec la carte d'identité, c'est pour ça.
On n'avait pas tellement le choix, et c'est une manière aussi de pousser à la vaccination. Alors maintenant, je vais peut-être entraîner un certain nombre de critiques, mais c'est uniquement d'un point de vue médical et sanitaire. Je suis très sceptique sur le test sanitaire, sur la PCR, pas sur la vaccination. La PCR vous donne effectivement une vision immédiate. Vous êtes négatif, vous êtes peut-être en incubation, le lendemain vous pouvez être positif. Moi j'ai regardé ce qui s'est passé à l'euro. Ça me paraît extrêmement important d'un point de vue médical. Vous avez un certain nombre, plusieurs centaines de supporters finlandais, je vais être très très précis, qui sont allés voir leur équipe jouer à Saint-Pétersbourg où il y avait une explosion du variant Delta. Bien entendu, pour voyager, ils ont tous fait un test PCR qui était négatif. C'est la condition. Ils sont arrivés à Saint-Pétersbourg, ils ont vu le match, ils ont été dans les bars, etc. Une grande partie, 80%, sont revenus positifs. Ils n'étaient pas vaccinés, ils ont été contaminés, et donc ils ont transporté le virus en Finlande. Donc, simplement pour dire...
Le PCR n'est pas un totem d'immunité.
Voilà, c'est pas un totem d'immunité complet. Je pense que c'est provisoire, mais que, en y réfléchissant, c'est le pass vaccinal.
C'était
voilà. Pas... Non, mais ça, c'est d'un point de vue médical.
Le pass sanitaire qui pourrait devenir un pass vaccinal.
Réalité, Et ce qu'il faudrait, c'est vraiment le pass vaccinal.
Mais c'est pas possible de le mettre en place aujourd'hui.
Je dis bien à terme, mais la réalité, ça sera
on
ça.
On peut pas vacciner toutes les personnes en même temps. Vous créerez là réellement une inégalité profonde. D'autant plus qu'on a visé d'abord, sans doute qu'on y viendra. On y viendra peut-être parce qu'à chaque fois, c'est une étape de plus.
Maintenant, ça pose quand même un certain nombre de questions. Je me pose la question sur les terrasses de café des restaurateurs. On a toujours dit qu'en plein air, le risque était très faible. Là, on n'a pas précisé si les contrôles auront lieu aussi en terrasse ou à l'intérieur des cafés.
Deuxièmement, le gouvernement a dit terrasse aussi. Hein. Terrasse concernée. Hein.
Je me pose la question d'un point de vue médical. Je pense que là, on aurait pu être un peu plus ouvert. Deuxièmement, que se passera-t-il dans les restaurants d'entreprise, dans les cafétérias? Est-ce que là, on va demander effectivement le pass à l'entrée de l'entreprise? Pour les gens, là, ça pose quand même un problème qu'il faudra aussi régler au niveau des entreprises, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus le télétravail obligatoire, donc les gens vont se rendre dans les entreprises. Alors, et peut-être faut, aller dans le restaurant d'entreprise.
Pour te répondre, les directeurs de cabinet des différents ministères concernés ont des réunions aujourd'hui. Il va y avoir des arbitrages sur la méthode. Et je rappelle que les projets de loi qui vont faire appliquer tout ça n'ont pas encore été présentés au Conseil des ministres et donc arriveront devant le Parlement. Et les modalités, tu as raison, le diable se niche dans les détails. Oui, donc on va en savoir plus dans les jours et les heures.
On va avoir de belles fiches kafkaïennes. Comme on en a vu au moment des attestations, je pense qu'on va bien rigoler.
Ah, tu peux pas leur reprocher de travailler. Allez, on va au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Kevin, qui est commercial, qui nous appelle de Laval. Bonjour Kevin.
Bonjour tout le monde, comment ça va bien?
Ça va
et
plutôt
toi,
pas
ça
mal,
va bien
Kevin. Toi, tu n'es pas vacciné, Kevin. Est-ce que tu es prêt à le faire? Tu as entendu le président hier?
Ouais, j'ai entendu. Ouais, c'est bien. Il est gentil. Bah, écoutez, il y a pas de souci. Hein. Moi, déjà, j'ai pas d'argent pour aller au ciné, pour aller au resto, pour aller au théâtre.
Ouais.
Donc, en fait, que je puisse pas y aller,
ça change rien.
Pas grave. Voilà, ça change rien. Par contre, ce qui me dérange un peu plus, c'est plus ou moins long terme, pas pouvoir aller faire les courses. Bon, c'est pas grave. Hein. J'irai au drive ou je me ferai livrer. Mais moi, ça me plaît pas du tout le fait qu'on nous demande. Enfin, il y a un contrôle effectué à ce niveau-là. Je pense qu'on devrait avoir le droit justement de garder nos libertés. Il y a les gestes barrières qui font très bien leur effet. Ce qui me fait mais vraiment halluciner, c'est pour ça que je rejoins M. Sebag, c'est que pour contrôler les gens qui ne font rien, les bons cotisants, vous savez, on nous retire plein de choses sur notre fiche de paie, etc. Pour être contrôlé et pour nous mettre des douilles, il y a du monde, il y a des idées. Par contre, pour un contrôle aux frontières efficace, il n'y a que dalle. Un contrôle au niveau de la fraude à la sécu, il n'y a que dalle. Non, mais voilà ce que je veux dire. Alors, je déborde un peu sur le sujet.
Non, c'est le même sujet, t'as raison.
Voilà, mais ce qui m'énerve, c'est que, voilà. Alors, le coronavirus, je ne le nie pas. Oui, effectivement, c'est une maladie, etc. Après, voilà, il y a...
Oui, mais Kevin, il se trouve que je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur le contrôle aux frontières. C'est vrai qu'on n'a pas fait...
C'est une blague, quand même, le contrôle aux frontières. Absolument. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils resserrent, il ne se passe jamais rien.
Il ne se passe jamais rien. Mais pardon, Kevin, je suis comme toi. Moi, cette idée de passeport sanitaire, au quotidien, ça m'agace. Et je peux même dire, comme Alexandre, que c'est attentatoire à nos libertés. Mais comme l'était le confinement, comme l'était le couvre-feu, comme l'est le port du masque obligatoire dans certains endroits, tout ça, je suis comme tout le monde, j'en ai marre. Sauf que, il y a une façon d'en sortir. Il faut aller se faire vacciner. Et quand tout le monde sera vacciné, toutes ces mesures que tu juges à juste titre ou légitimement liberticides, elles seront abandonnées. Donc qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez, vous, ceux qui n'êtes pas vaccinés, pour aller vous faire vacciner?
Négatif, c'est pas juste passager.
Ah vous si, savez, la TVA, quand on sera être... quand on sera tous vaccinés, on n'aura plus besoin de ces mesures. Hein.
Laurent, je vous assure, je suis pas d'accord avec vous, mais je vous ai déjà vu, vous êtes quelqu'un bien, on a bien déconné. Mais franchement,
ah bon, mince.
Ah oui, on s'est déjà vu. Hein.
Oh, on s'est vu où?
Ah, on s'est déjà vu lors des 30 propositions.
Ah ouais, exact, je me souviens.
Du moment que c'est pas dans un restaurant clandestin, tout va bien.
Non. C'est pas là où tu peux.
Quelles sont vos réticences à la vaccination?
Alors mes réticences à la vaccination, j'ai fait une réaction allergique au BCG, vous voyez, et je suis allergique à un certain adjuvant. Vous voyez, ça c'est un peu plus.
Alors, je vais vous rassurer de ce côté-là. Le BCG est un vaccin vivant. Dans les vaccins ARN, puisque vous êtes jeune et vous avez moins de 55 ans, il n'y a pas d'adjuvant. Il y a effectivement eu des problèmes allergiques, mais vraiment sur des gens qui étaient très très allergiques et qui se baladaient avec des seringues d'adrénaline au cas où ils faisaient une crise. Donc ça a été, et on les gardait un quart d'heure, 20 minutes, et les choses se passaient très bien. Donc si c'est vraiment la raison, je tiens médicalement vraiment à vous rassurer de ce côté-là. Et moi, j'aimerais que vous vous fassiez vacciner. Si vous n'avez pas d'argent pour aller au cinéma, vous pourrez aller voir les copains, aller un peu partout. Vous allez revivre, je vous assure, vous allez revivre quelque part.
Non, mais vous êtes mal tombé sur moi parce que j'aime pas les gens. Mais
alors plutôt ton confine, Kevin.
Mais le souci.
J'aime pas les gens. Non, mais j'adore ton test. Alors, ton honnêteté.
Le confinement, ça vous.
Monsieur le misanthrope, vaccinez-vous.
Non mais alors moi c'est pareil, il y a un petit quelque chose qui me dérange, c'est que le vaccin, je suis pas contre les vaccins, j'ai été vacciné contre la fièvre jaune, je suis vacciné contre le tétanos, etc. Je suis pas non plus totalement hors de ça. Ce qui me pose le problème, c'est que par exemple il y a des traitements. Alors je vais pas parler de Raoult, etc. Mais il y a des traitements, vous savez très bien, qui sont quand même préventifs. La vitamine B, l'ivermectine, etc. Enfin bref, il y a différents produits quand même qui ont été étudiés et on n'a pas, je pense, à mon goût, on n'a pas mis assez d'efforts aussi là-dessus sur un traitement. On s'est vraiment focalisé sur un vaccin. Alors,
mais vaut mieux ne pas être malade. Hein.
Non mais quelle est la solution? Pourquoi tu préfères un traitement préventif à un vaccin? Un vaccin, c'est quoi sinon un truc préventif? On te vaccine, comme ça tu n'attraperas pas la maladie.
Ouais, mais pourquoi on fait pas un traitement préventif?
Mais quelle est la différence?
Ça s'appelle le vaccin, non?
Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas?
Parce que pour le moment on n'en a pas trouvé.
Je peux vous assurer qu'on cherche. Vous avez raison sur le traitement. Vous savez, c'est la différence avec le sida. Le sida, on a découvert, il a fallu 13 ans pour trouver des antirétroviraux extrêmement efficaces. Ça a modifié quand même le profil de la maladie, mais on n'a toujours pas de vaccin après plus de 40 ans de découverte. Eh ben, la Covid, on a trouvé un vaccin très rapidement, on n'a toujours pas de traitement. On les a essayés, je peux vous assurer. L'ivermectine, je connais par cœur. On a même essayé le plaquenil, donc l'hydroxychloroquine. Mais on aurait tellement voulu que ça marche. Mais attendez, on aurait tellement voulu que ça marche. Malheureusement, ça marchait pas. Alors la vitamine D, vous avez raison, ça donne quelques signes, mais c'est pas quelque chose de préventif comme l'est le vaccin.
En tout cas, Kevin, il a trouvé un traitement préventif, il va s'autoconfiner puisqu'il n'aime pas les gens. Donc il va être tranquille, pas besoin d'aller au resto. Merci Kevin d'être venu débattre avec nous dans Neumann le Chip. Dans un instant, on va écouter Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui est en train de s'exprimer sur la quatrième vague qui est déjà là, selon lui. On vous attend, vous, au 32-16 pour parler des contrôles d'identité qui vont avoir lieu avec le pass sanitaire. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann le Chip. RMC, midi 14h. Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Neumann le Chypre, on est ensemble jusqu'à 14h. Passe sanitaire au restaurant, dans le train, au cinéma, dans les commerces. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent? Pour Laurent Neumann, c'est oui, c'est provisoire jusqu'à ce qu'on atteigne l'immunité collective. Pour Alexandre Devecchio, non, le flicage va trop loin. Robert Sebag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, est toujours avec nous. Et je vous propose d'écouter Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Il est en train de s'exprimer. Il justifie à la sortie du Conseil des ministres les décisions d'Emmanuel Macron d'hier soir.
La quatrième vague pourrait avoir commencé. Ce n'est plus un risque, c'est une réalité. L'épidémie reprend dans notre pays, elle reprend vite, et c'est pourquoi nous prenons des décisions supplémentaires dès à présent. Nous agissons vite pour prendre l'épidémie de court. Nous agissons tôt pour que cette vague ne nous submerge pas. Au niveau national, le taux d'incidence accélère sa remontée. En une semaine, il a progressé de plus de 60% et il s'approche du seuil d'alerte.
Lisa Marie, quelle est la première tendance des votes?
C'est très tranché, vous êtes 70% à répondre non, vous n'êtes pas prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent.
Et pourtant, il va falloir s'y faire, puisque le pass sanitaire va devenir obligatoire.
Il me reste quoi? Il me reste une demi-heure pour les faire changer d'avis.
Eh bien, c'est ça, ça sera ton défi, Laurent Neumann. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16.
On est avec Damien, qui nous appelle depuis Paris, qui est commerçant. Bonjour Damien.
Bonjour, bonjour.
Salut Damien, est-ce que tu es prêt, toi, à faire la police devant ton magasin? Qu'est-ce que tu vends?
Eh ben, moi, je vends des vêtements, donc je suis dans le prêt-à-porter.
Ouais.
Bah donc, t'es pas concerné,
en fait, moi, je suis tout simplement, comme on m'a toujours appris, c'est chacun son métier. Donc moi, je suis pas du tout prêt pour le flicage, c'est pas mon métier, c'est pas à moi de le faire. Moi, je pense surtout que c'est pour éviter aux policiers de faire plus que leur propre travail, en fait.
Non, mais Damien, attends, je t'arrête. Toi, t'es pas dans un centre commercial ?
Si.
Ah, d'accord.
Et dans un des plus gros de France.
Ah, d'accord.
Et je peux vous expliquer, et je peux vous dire, ayant vu que ce soit première vague, seconde vague ou troisième vague, que ce soit les gestes barrières ou quoi que ce soit, que ce soit les centres commerciaux, donc les plus gros patrons qui tiennent ces centres commerciaux-là, n'ont fait aucun geste barrière.
Et alors,
il n'y avait pas de gel à l'entrée, il n'y avait pas de masque proposé, il n'y avait rien.
De toute façon, pardon, tu m'arrêtes si je me trompe, Damien, c'est pas toi, propriétaire de ton magasin, qui va organiser ce contrôle. Ça va être fait à l'extérieur du centre commercial.
Alors, justement, j'attendais justement cette question-là. Comment se fait-il que lors du dernier confinement qu'il y a eu, que tous les policiers rentraient dans nos propres magasins pour nous demander justement de contrôler les jauges?
Ah, magasin par magasin.
Magasin par magasin.
Ah oui.
Ah, si, donc, si, au bout d'un moment,
ça se tient.
Moi, je pense.
Non, mais attends, ceux qui vont contrôler l'entrée avec le pass sanitaire, c'est pas des policiers.
Véran a été clair ce matin. Il a dit quand on est restaurateur, mais je pense que c'est la même chose quand on est pro. Quand on tient une boutique, on doit vérifier que ses employés, tous les matins, soient et bien ce pass sanitaire.
Donc, oui,
effectivement, on demande aux gens de se substituer à la police. C'est pour ça que je disais que c'était un climat extrêmement malsain. Et c'est pour ça qu'à tout prendre, j'aurais préféré rendre la vaccination obligatoire. Ça permettait, encore une fois, à l'État de prendre ses responsabilités à tous les niveaux.
Mais en fait, s'il y a un problème avec le vaccin,
ça permet de se retourner contre l'État.
Bien sûr, c'est à l'État de contrôler son boulot. Parce que s'il y a des effets secondaires, le problème, c'est qu'ils ne sont pas responsables.
Exactement. Là, j'abonde dans votre sens. Ça aurait été rassurant pour tout le monde que l'État prenne ses responsabilités, assume les éventuels effets secondaires.
J'ai un cas particulier. J'ai ma mère qui est atteinte d'une maladie orpheline. Une maladie qui n'est pas connue en France.
Ouais.
Qui me dit que le vaccin va pas la tuer si je la vaccine?
Personne, il y a un médecin qui est à côté de nous.
Quelle est cette maladie, monsieur, si vous l'avez?
La fibromyalgie.
À ma connaissance, aujourd'hui, c'est pas une contre-indication sur la vaccination.
Alors, on est d'accord. Alors pourquoi quand il y a eu la première vague, le premier confinement, qu'on disait que quand il y avait des pathologies, il fallait se faire hospitaliser, qu'on lui a demandé de prendre du paracétamol alors qu'elle était quasiment en train d'étouffer? Je sais pas, moi, c'est des questions que je pose.
Mais parce que l'époque dont tu parles, il n'y avait pas encore le vaccin, j'imagine.
Ah, mais ça j'en doute bien. Mais donc, dans ce cas-là, entre hospitalisation et paracétamol, il y a quand même un écart.
Bah, je peux pas répondre, moi, je suis pas médecin. Mais du coup, avec une maman autant à risque, j'imagine que toi, t'es vacciné.
Eh ben, moi, je vais finir par aller me faire vacciner. Pourquoi? Parce que sinon, je ne pourrais plus aller voir ma famille, même en France.
Ben oui.
En fait, on ne nous oblige pas à faire le vaccin, mais on nous l'incite très, 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 très fortement.
Ah, bah là, oui, c'est beaucoup plus dire.
C'est tout clair. Compris.
Encore une fois, non, mais j'abonde dans votre sens. La vaccination obligatoire, d'abord, a été moins hypocrite, plus courageuse. Moi, j'aime bien les hommes politiques courageux. Et ensuite, en termes de responsabilité, même si moi, je crois que le vaccin est sûr, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça aurait rassuré tout le monde. L'État prenait ses responsabilités en cas d'éventuel effet secondaire.
Écoute,
et l'État faisait le contrôle et la police lui-même, sans demander aux citoyens de se substituer à l'État.
Vas-y Damien, puis on va réécouter Gabriel Attal.
Ouais, et moi, j'allais vous dire un truc qui est encore plus simple. Pourquoi, à votre avis, et ça j'en ai parlé avant que Emmanuel Macron fasse son allocution hier, le nombre de personnes qui allaient demander un rendez-vous sur Doctolib, j'en parlais juste avant l'allocution, comme quoi il y allait avoir des heures et des heures d'attente.
Eh ben, tu vois, c'est ce qui s'est passé.
Dès l'instant que M. Macron a dit quoi? Les centres commerciaux, c'est fini, les magasins sont finis, et ben, les moutons, ils sont partis.
Il fallait inciter, c'est exactement ce que dit Gabriel Attal, ce qu'il a dit il y a quelques instants, on l'écoute.
L'heure n'est pas à l'obligation vaccinale, mais à l'incitation maximale. Le vaccin, c'est ce qui nous permet de vivre le plus normalement possible. Nous ne pouvons pas nous en passer. Nous refusons de fermer à nouveau commerces et restaurants parce que certains ne se seraient pas fait vacciner. Oui, il y aura une prime au civisme. Oui, les mesures de restriction pèseront désormais davantage sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. Nous l'assumons franchement, car sortir du Covid est un effort collectif.
Pardon, Alexandre.
Incitation maximale.
Oui, je viens de te prendre en flagrant délit de mauvaise foi, pardon. Mais si le gouvernement avait fait le choix que tu préconises en disant obligation vaccinale pour tout le monde, Mais tu serais le premier aujourd'hui à dire quel scandale.
Mais non, il a dit qu'il aimait le courage.
Mais arrête, non, quel scandale, c'est liberticide. Là, t'aurais pas parlé d'autoritarisme, t'aurais dit c'est Pinochet, c'est Fidel Castro.
Mais si déjà
j'entends des responsables politiques aujourd'hui qui disent qu'avec le pass sanitaire, c'est l'apartheid, etc.
Mais alors, il n'a pas dit ça, Alexandre.
C'est
pas Michel Rivasi.
Si on avait dit obligation vaccinale pour tout le monde, t'aurais été le premier à dire, je suis très honnête,
je suis contre la vaccination obligatoire. Moi, j'aurais misé sur le travail de conviction. Mais entre deux mots, j'aurais préféré la vaccination obligatoire. Bon, on a écouté Gabriel Attal, je vous propose de vous citer quelqu'un. Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas. Qui a dit ça ?
C'est Macron, il a changé d'avis.
Emmanuel Macron, le 30 avril 2021.
C'est peut-être ça le courage, c'est de changer d'avis.
Mais là, il faut le dire. Sinon, on brise la confiance. C'est là où je veux en venir. Pourquoi on en est là ? Parce qu'on dit tout et le contraire de tout. La même personne qui a dit jamais, aujourd'hui, le dit et de manière autoritaire, sans faire son mea culpa. Je pense que de l'humilité aurait été préférable et aurait permis d'être beaucoup plus efficace pour inciter les gens à se faire vacciner.
Et on est avec Jean Terlon, vice-président de l'UMI Restauration, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour Jean Terlon.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous êtes prêt pour faire les contrôles devant les terrasses, devant les entrées des cafés, devant les restaurants ?
Bon, moi, mis à part, on ne va pas parler du problème de fond, bien sûr que la vaccination, c'est obligatoire pour que les gens se protègent individuellement, mais nous, notre problème dans la restauration, c'est qu'une fois de plus, on nous met devant un fait accompli extrêmement rapidement, en sachant que techniquement, tout est impossible d'avoir, on va perdre 60% de clients qui ne sont pas vaccinés pour l'instant, qui n'auront pas le temps de se vacciner à temps pour finir la saison du mois d'août. Donc techniquement, une fois de plus, comme au mois de mars, on nous a fermé en 4-5 heures, on nous prévient hier que malgré les réouvertures, les terrasses qui sont formidables où il n'y a pas de virus, maintenant, ça redevient des endroits stigmatisants avec des contaminations possibles.
Donc, il va y avoir un problème de personnel, en fait, Jean Terlon.
Ah, mais il y a déjà un problème de personnel. Donc, hors de question, bien évidemment, d'employer, parce qu'on n'en a pas les moyens, des personnes pour contrôler. Ça demande un travail supplémentaire là où il manque déjà de la main-d'œuvre et qu'il manque déjà des serveurs, des cuisiniers. Tout le monde en parle et c'est ce que vivent tous les professionnels en ce moment, parce que les gens ont vécu pendant le confinement une réflexion sur leur vie privée, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui l'ont quitté, notre métier. Donc là, on en rajoute une louche encore dans le millefeuille, et le millefeuille devient totalement indigeste. Donc la rapidité dans laquelle on nous informe hier que dans 15 jours, et pourquoi pas 15 septembre, pourquoi les restaurateurs et les autres secteurs sont stigmatisés dès le mois d'août, alors qu'on va donner du temps au personnel soignant, c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre. On pourrait faire la même chose. D'ailleurs, je m'étonne, il va souvent y avoir un problème au niveau des lois, parce qu'on va se retrouver avec des catégories qui ne vont pas être identiques devant la loi. Et je pense que le Conseil d'État va sûrement pas aimer le sujet.
Jean Terlon, on va voir ce que vont dire et le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Mais pardon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais me faire l'avocat du diable quelques instants. Vous faites partie, les restaurateurs, les cafetiers, des professions qui ont sans doute été le plus aidés en Europe et même dans le monde. Je peux pas vous laisser me répondre ça. Il y a des tas de pays dans le monde où on a fermé, où on les a pas aidés.
Oui, mais voilà.
Aujourd'hui, et je vais faire l'avocat du diable jusqu'au bout. Ouais. Aujourd'hui, on vous demande de l'aide. On vous demande de participer à l'effort collectif de vaccination.
Mais monsieur, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. On participe à tout ce que vous voulez. Simplement, vous pourrez quand même admettre que la méthode, comme d'habitude, elle est expéditive et rapide.
Je vous l'accorde.
Si on nous avait expliqué avant la saison ou à la réouverture des terrasses que nous allions arriver au mois d'août avec un pass sanitaire, que tout le monde se prépare à avoir un pass sanitaire, que tout le monde indirectement, là, on est sur l'obligation de se vacciner. Il n'y a pas, voilà, on tortille du cul, excusez-moi, mais c'est ça le sujet. On est obligé de se vacciner. Bon, très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Le pass sanitaire, on n'y a pas de souci. Simplement, il faut nous prévenir. Donc, à partir de l'ouverture des terrasses, qui était un endroit qui, a priori, maintenant redevient un endroit contaminant alors qu'il n'était pas, il faut juste nous prévenir.
Je suppose que vous allez négocier avec votre ministre de tutelle pour obtenir des délais.
Mais on... la négociation, quand le problème, c'est qu'il faut négocier avant, c'est un homme politique, c'est prévoir. C'est pas
gouverner, c'est pouvoir.
Dans 15 jours, vous allez faire un truc qui est impossible.
Oui, monsieur, vous avez raison, ça a été très rapide, mais c'est vrai que la multiplication de ce virus va très très vite aussi, il fallait prendre des décisions. Et là où je vous donne raison, et je l'ai dit et je l'assume complètement, c'est les terrasses. On a répété en permanence que le risque à l'extérieur, en particulier sur les terrasses, il était quasiment nul. On a les chiffres de contamination. Oui. Et j'avoue, comme médecin, ne pas comprendre, si vous voulez, le fait de contrôler les gens au niveau des terrasses.
Eh oui.
Autre chose sur le contrôle, effectivement, vous avez raison, qui va contrôler. Alors, moi, je sais qu'il existe un certain nombre de machines, pas très 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 chères, en particulier pour peut-être les grands établissements, les centres commerciaux, qui permettraient de détecter, comme quand vous prenez un billet de train, vous mettez votre portable ou le papier qui reconnaît le QR code et vous passez. Et là, ça serait un contrôle automatique qui faciliterait effectivement ce contrôle qui effectivement va poser un problème. Là, on attend, si vous voulez, l'aménagement de ces différentes décisions, savoir comment ça va être aménagé concrètement dans 3 semaines.
Bah oui, dans 15 jours, on arrive au mois d'août et le mois d'août est un très gros mois. Tous les Parisiens vont partir en vacances et les 15 premiers jours d'août, c'est ce qu'il y a de plus concentré dans les lieux touristiques. Donc je veux dire, on conteste, c'est pas qu'on conteste, on conteste rien. On est pour tout ce qui est pour le combat du virus. Faut juste nous arrêter de nous donner des délais aussi courts. C'est pas possible.
Et d'ailleurs, pour tout le monde, parce que ça va être compliqué de se faire vacciner dans des délais aussi courts. Juste un mot pour défendre les restaurateurs par rapport à Laurent Neumann. Moi, je crois pas du tout que vous avez été aidé, vous avez été indemnisé. Et c'est pas vrai que la France est le seul pays qui a aidé ses restaurateurs. Dans les pays anglo-saxons, il y a eu beaucoup moins d'aide. C'était 80 à 100% du chiffre d'affaires.
Mais dans les pays latins aussi.
Et dans les pays latins, on les a fait
Espagne,
ouvrir.
Espagne, zéro. Portugal, zéro.
À latin, ils ont rouvert beaucoup plus tôt.
Parce qu'il n'y avait pas d'aide.
Ils ont été contaminés.
Allez, ça n'est pas le débat. Merci beaucoup Jean Terlon d'avoir été avec nous. C'est pas facile de recadrer ce débat. Vice-président de Lumi Restauration. Merci à Damien qui était avec nous au 32-16. On vous attend pour parler du pass sanitaire et de l'impact sur les contrôles d'identité. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre. RMC, midi 14h. Neumann Le Chiffre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Closier.
Neumann Le Chiffre, le retour, passe sanitaire au restaurant, dans le train, au cinéma et dans les commerces. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent? C'est notre question pour Laurent Neumann. C'est oui, c'est provisoire jusqu'à ce qu'on atteigne l'immunité collective. Pour Alexandre Devecchio, non, le flicage va trop loin. Et vous étiez nombreux à nous interroger sur la question des 12-17 ans. Est-ce qu'ils vont pouvoir quand même aller au restaurant avec leurs parents? Là, tout de suite, s'ils ne sont pas vaccinés, eh bien, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a précisé il y a un instant ce qui allait se passer durant cet été.
Le vaccin est nécessaire, sûr et efficace pour les personnes entre 12 et 18 ans. Le pass sanitaire s'appliquera donc bien aux enfants à partir de 12 ans. Pour autant, nous sommes pragmatiques et comme toujours, nous allons faire prévaloir le bon sens. Le nombre d'adolescents ayant reçu un schéma vaccinal complet est aujourd'hui faible et il est évidemment hors de question pour nous de leur imposer à eux et à leurs familles un été infernal en raison du pass sanitaire. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Santé échangera aujourd'hui avec les autorités sanitaires, scientifiques, pour que nous puissions communiquer des règles de souplesse qui permettent de répondre à cette situation.
Je voulais vous apporter un peu de clarté, mais je ne suis pas sûre que ça ait marché.
Non, mais attends, j'espère que Valérie, qui nous a appelé tout à l'heure et qui avait un problème
avec ça. T'as compris quelle allait être la règle? Parce que excuse-moi, je n'ai pas compris. Hein.
Souplesse.
Justement, va être souplesse. Qu'est-ce que ça
veut
dire?
On ne va pas pourrir la vie des familles à cause du pass sanitaire. C'est clair. On va pas.
En particulier pour les enfants.
Évidemment. Du coup, tu vas pouvoir aller voir à Euro Disney. Et si ta fille de 14 ans est
plus
pas.
Plus personne ne dit Euro Disney.
Ah, Disneyland Paris, si tu préfères. Mais ailleurs, au Futuroscope, par exemple.
Par exemple. Hein,
voilà, ça on dit comme ça encore.
Au parc Astérix.
La preuve que les auditeurs ont bien fait d'appeler et de râler. Mais c'est qu'un des premiers rétropédalages, je pense, parce qu'on a eu des annonces effectivement brutales. Alors, je dis.
Il y a un quart d'heure, tu trouvais ça trop dur. Maintenant qu'on l'assouplit, rétropédalage.
Non,
en fait, il n'y a rien
Je dis qu'il faut, quand on est président de la République, qu'on s'exprime rarement, même s'il s'exprime beaucoup, qu'on fait une allocution solennelle, il vaut mieux réfléchir avant de parler. Il était évident en dépit du bon sens. Et je pense qu'on va revenir sur d'autres mesures. J'espère que ce sera le cas.
Tu sais ce que disait De Gaulle.
Le le docteur Sebag a parlé des terrasses, je pense qu'on va être obligé d'y revenir. Et je vais vous dire même, je pense qu'on va aller vers, et je le regrette, parce que moi je pense que l'État en France, c'est sérieux, c'est ce qui bâtit la nation. Mais je crois qu'on l'a vu au régional, il y avait une forme de sécession, et je pense qu'on va vers un modèle à l'italienne ou à la Corse, qui fait partie de la France,
mais avec ses spécificités. Soit pas désobligeant pour les Italiens
avoir,
et les Corses.
Et qu'on va avoir, voilà, on va s'arranger un peu avec la règle cet été en réalité. Il va y avoir des faux qui vont circuler, on va connaître nos restaurateurs qui vont nous laisser rentrer, et tout ceci sera appliqué, plus ou moins appliqué, tant mieux. Mais tant mieux d'ailleurs, mais tout ceci manque de sérieux.
Non, mais parce que tu pars du principe qu'on fait tout ça pour emmerder les gens. On fait pas ça pour ça du tout. On fait ça pour les inciter à aller se faire vacciner. Je le répète, quand 90% de la population de plus de 12 ans sera vaccinée, tout ça, ça disparaît. Donc allez-y, voilà, c'est tout. C'est tout.
Allez-y pour qu'on puisse changer les sujets des débats. Ça peut être un argument, je sais pas.
Bon argument pour les éditorialistes, parce qu'on va devenir fou. Mais là aussi, j'insiste, Laurent Neumann nous dit ça va être temporaire, vous inquiétez pas. Mais c'est ça qui angoisse les gens. On nous avait dit le confinement va éradiquer le virus. Il y aura pas de deuxième confinement. Il y en a eu 3 ou 4. Et aujourd'hui, il y aura pas de passe sanitaire. Il y a un passe sanitaire. Il y aura pas de vaccination obligatoire. Où, quand est-ce que ça va s'arrêter?
Toi, c'est ce qui est dit. Faut pas revenir sur sa parole. On va au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16. On est avec Noël qui nous appelle de Marignane, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Noël.
Bonjour.
Toi, tu es commerçante et tu ne comprends pas les gens qui râlent du vaccin obligatoire. Même si c'est pas ça, le vaccin obligatoire, c'est une incitation très 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 forte.
Bon, bah écoutez, moi je pense qu'il faut se faire vacciner, tout simplement. Peut-être pas le rendre obligatoire tout de suite, mais il va falloir y venir. Voilà, parce que bon, c'est la seule façon d'enrayer ce gros problème qu'on vit sur la terre entière, quoi. Voilà, c'est mondial. Alors bon, il faut être tous ensemble contre le virus. Voilà. Alors si le vaccin c'est la meilleure solution, ben il faut l'adopter, puis c'est tout.
Ouais, d'ailleurs, j'adore parmi ceux qui déploraient, à juste titre d'ailleurs, au début de la pandémie, l'absence de masques, de blouses, de matériel, etc. Aujourd'hui, on a le vaccin qui nous protège de tout et on ne veut pas se faire vacciner. Je veux dire, c'est quand même
les gens réfléchissent encore, on ne sait pas pourquoi, mais bon, voilà. Nous, on est tous vaccinés et on est très contents de l'être. Et puis, moi, j'incite tout le monde autour de moi à le faire. Voilà, on est commerçants, on demande aux clients, on essaie de les convaincre. Voilà, on fait notre petit travail comme on peut.
Toi, t'es à Marignane, Noël, c'est ça?
Oui.
Et parce que j'ai vu qu'il y avait certaines villes de la côte, notamment à Nice, où on avait instauré le label pour les commerçants, pour dire, nous ici, dans ce commerce, tout le monde est vacciné. Est-ce que tu vas faire ça, toi?
Oui, pourquoi pas. Oui, s'il est sur notre commune, on le fera, oui. Pas de souci, nous, on est pour le vaccin, on est pour les masques, on est pour le désinfectant, on est pour toutes les règles à respecter, quoi. Voilà, il faut essayer de suivre aussi, c'est pas évident.
Tu fais plaisir à Robert, Noël, si tu voyais ça.
Je te rassure surtout, contrairement à l'idée que tu peux avoir, c'est... Tu es majoritaire. Il y a une majorité de gens qui pensent comme toi.
Ah ben j'imagine, parce que dans ma famille et autour de moi, mes amis, on va dire 90% sont vaccinés et pensent comme moi.
Madame, comme commerçante, diffusez ce message. Dites-le à toutes vos clientes et clients.
Tout à fait, ben c'est ce qu'on fait. On le dit autour de
nous. On a besoin de personnes comme vous.
Voilà. Voilà, c'est notre petit travail à nous, de commerçants, de petits commerçants, voilà.
Merci Noël d'avoir été avec nous dans Neumann le Chypre depuis Marignane. On est avec Jean-Luc qui nous appelle depuis Pibrac. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour à toute l'équipe.
Salut Jean-Luc. Tu es pour...
Un gros bisou à Lisa Marie d'abord.
Ah bah écoute,
Attends, pourquoi Lisa Marie?
Côté de chez moi.
Ah, c'est parce que tu es de Haute-Garonne.
Ah oui.
Et je connais bien Pibrac, monsieur. J'ai fait mes études de médecine à Toulouse et je connais bien l'église de Pibrac.
Eh ben, gros bisous pour toi aussi, Robert.
Il y a une église, mais une basilique.
Ouais. Oui, là, on fait la basilique, vous voyez.
Et il y a toujours la célèbre pâtisserie boulangerie à côté.
Oui.
Eh ben voilà.
Mais ça marche à tous les coups, t'en sais rien. Il y a une boucherie aussi, non?
La boucherie est plus loin.
Quel joueur de poker, celui-là. Jean-Luc, toi, tu es pour et contre le pass sanitaire. Comment c'est possible?
Alors, déjà, je suis vacciné.
Oui.
Complet. Enfin, complet. J'ai eu qu'une dose, mais de Janssen.
Donc, tu n'as pas besoin de deuxième dose, d'accord?
Voilà, il n'y a pas besoin de deuxième dose. Après, je suis pour. Ben, c'est vrai que c'est mieux d'être vacciné, machin, d'avoir des contrôles. Mais après, là où je suis contre, c'est que, comment dire, comme j'ai dit au standard, tôt ou tard, ça va se répercuter sur les prix. Et donc, c'est toujours le pitchou. Enfin, c'est-à-dire le salarié, l'ouvrier qui va payer, quoi.
Pourquoi sur les prix, explique-moi.
Eh bien, parce que, automatiquement, les petits supermarchés, comme il y a par chez nous, là, par les très grandes surfaces, je parle des supermarchés en mots, si le Super U, Lidl, machin.
Ouais.
Et Carrefour Market, ouais, parce qu'il en faut trois.
Ouais, ça va, ouais,
non, mais je veux pas faire non plus.
Non, non, de publicité clandestine, tu as raison.
Non, non, mais ce qu'il y a, c'est que, comment dire, un chiffre fictif, s'il y a par exemple deux vigiles en temps normal, là, ils vont être obligés de doubler, voire de tripler.
Donc, ça ton inquiétude, c'est que les coûts occasionnés par ces contrôles soient répercutés sur les prix pour le consommateur.
Ah ben moi, je suis persuadé que ça va être répercuté sur le consommateur.
C'est déjà le cas avec le gel. Moi, mon coiffeur, il a augmenté de 7 euros le prix de la coupe hein, depuis qu'il y a le Covid. Hein.
Mais attends, on va lui envoyer
avec le gel, les mesures sanitaires et tout. Donc,
Tu t'es plainte, j'espère.
Beaucoup, oui.
Il y a un aspect dont on n'a pas parlé. Le président de la République s'est attribué un satisfecit sur la crise économique et sociale en disant quasiment qu'on en était sorti, qu'on allait vers la croissance, qu'il n'y aurait pas de conséquences sur l'emploi. Je suis, moi, beaucoup plus sceptique. Et ce qui est vrai, c'est que toutes ces nouvelles mesures vont avoir un impact. On est en pleine saison, au moment où les gens ont envie de repartir, de consommer. Les restaurateurs qui ont déjà payé un lourd tribut et d'autres, et les cinémas, ça va être encore difficile pour eux. Donc, peut-être qu'il faut poursuivre le quoi qu'il en coûte, même si je pense que c'est des sommes énormes qui ont été englouties. Donc, c'est aussi un aspect qu'il faut considérer.
Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous dans Neumann le Chypre. Un grand merci à Robert Sebag de nous avoir accompagné ces deux heures, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière.
Ça fait deux ans qu'il nous accompagne, ça fait deux ans depuis le début Robert, de la pandémie, il est là.
C'est vrai, Robert, c'est notre médecin préféré. Robert, tu reviens quand tu veux. Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Vous êtes finalement 61% à avoir répondu non, vous n'êtes pas prêt à vivre avec le contrôle d'identité permanent.
Et voilà, tu n'as pas convaincu. Laurent, on va parler de vin avec Lisa Marie.
RMC, Neumann le Chypre.
C'est bon à savoir.
Lisa Marie, c'est un véritable séisme dans le milieu du vin. Cheval Blanc et Aussonne quittent le classement des vins de Saint-Émilion.
Aussonne. Oui, les deux châteaux les plus prestigieux de l'appellation Saint-Émilion, Cheval Blanc et Aussonne, tu le disais, n'ont pas envoyé de dossier permettant de prétendre au futur classement attendu l'an prochain, en 2022, pour l'appellation Grand Cru. En cause, la trop forte place laissée à l'aspect réceptif et aux réseaux sociaux, au détriment de la dégustation du terroir. Parce que chez Saint-Émilion, pour prétendre au titre de premier Grand Cru ou de Grand Cru, il n'y a pas que la qualité du vin qui compte, il y a aussi l'aspect marketing et la communication des domaines. Par exemple, les placements de produits dans des films ou la présence sur les réseaux sociaux. Les deux propriétés ont donc décidé de tourner le dos au classement des grands crus. Cheval Blanc, c'est le château le plus célèbre de Saint-Émilion, avec LVMH comme actionnaire. Et pour vous donner une idée, une bouteille se vend à plus de 500 euros. Aussonne est moins connu, c'est un plus petit domaine qui cultive la discrétion. La bouteille d'Aussonne est à plus de 700 euros. Les deux châteaux ont donc décidé de jouer seuls leur partition et comptent s'appuyer sur leur notoriété partout dans le monde pour continuer à bien vendre leurs bouteilles.
Oui, parce qu'en fait, en Saint-Émilion, il n'y a que 4 premiers grands crus classés A. Il y a les deux que tu viens de citer. Je crois qu'il y a, de mémoire, il y a Château Pavie, c'est ça. Je crois qu'il y a Château Angélus et les deux que tu viens de citer.
Et Cheval Blanc et Aussonne.
Voilà, que ces deux-là quittent le classement, bah ça veut dire que ça jette le discrédit sur l'ensemble du classement.
Et la façon dont le classement aussi est fait finalement.
Bien sûr.
Alexandre, est-ce que tu as déjà bu du Cheval Blanc?
Hélas, non, je ne crois pas.
Ni du Aussonne. Alors que toi, Laurent, tu m'as l'air d'en avoir déjà bu.
J'ai déjà goûté du Château Cheval Blanc.
Et alors, on me l'a offert, une bouteille à 500 euros, ça... Non, mais tu as bu quelque chose d'exceptionnel, tu as ressenti que c'était exceptionnel.
J'ai bu quelque chose d'exceptionnel. En plus, c'était un cru très ancien. Donc oui, j'ai bu quelque chose d'exceptionnel. Mais personne peut s'offrir ça, c'est impossible. On m'a offert de.
Non, mais te justifie pas. Je te demande juste si c'est exceptionnel. Je te demande pas.
Alors moi, tu sais.
Avec qui et quand c'était.
D'abord, il faut dire la vérité.
Moi, caprice de milliardaire. Alors
moi, je préfère.
J'ai le fisc qui m'appelle Laurent.
Non, moi je préfère les Bourgognes. Voilà, c'est mon goût personnel. Mais je dois dire que Château Cheval Blanc, on est dans l'exceptionnel. C'est remarquable.
Et les deux tiers de ces vins, Cheval Blanc et Aussonne, sont vendus à l'étranger.
Absolument.
Mais donc toi, le fait qu'ils quittent le classement Saint-Émilion, c'est important pour toi. Parce que moi, j'avoue que ça ne me fait rien.
Pour moi, ça ne change pas ce que je pense de Château Cheval Blanc ou de Château Aussonne. En revanche, je pense que ça contribue à discréditer le classement des Saint-Émilion en général. Voilà. Au moins, il n'y a pas ce problème avec les Bordeaux qui sont sur la rive gauche, parce que tous les classements sont totalement figés depuis 1861. Voilà.
On a appris des choses sur le vin. Merci beaucoup, Lisa Marie. On peut retrouver C'est bon à savoir sur rmc.fr et sur nos réseaux sociaux. C'est la fin de Demain le chiffre pour aujourd'hui. On se retrouve demain midi, 15h, même endroit.